Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Organisé en 3 mois, mais aussi ne connaître que le 4 mai l'identité des finalistes.
L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du monde, pardon.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Jusqu'à minuit 30, l'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC. Et évidemment, ensuite la libre antenne suivra jusqu'à 1h30. L'After est là. Premier podcast de France, votre espace de liberté à vous, les supporters de foot. Appelez-nous 32-16 pour analyser les deux matchs du jour. Alors, on parlera de l'équipe de France également. Tout à l'heure avec l'actualité du jour. Florent Gautreau est là. Salut Florent.
Salut à tous.
Florent, un petit jeune qui monte avec nous ce soir. Il a joué dans le plus grand club de la planète, dans l'ancien club de Strasbourg, évidemment.
C'est vrai. Avec
enfin, il confirme.
C'est vrai, je confirme.
Ricardo Fati est là. Bonsoir Ricardo.
Bonsoir Gilbert. Bonsoir à tous.
La Roma.
Il a joué avec Stoffel ou pas lui, sur le maillot?
Stoffel,
non, c'est pas mon époque.
Non, t'as joué avec quoi toi?
Moi, c'était plus Steelcase. Tu te rappelles Steelcase?
Année 2000.
Ouais. Steelcase, les maillots
Hummel, tout ça. Asics aussi.
Très bien.
Corentin Martins.
Bah, c'était pas les plus beaux maillots de l'histoire de Strasbourg.
C'était pas les plus beaux, en effet, ouais.
Mais bon,
mais ça reste plus grand club.
Bon souvenir.
Bon programme, évidemment, l'analyse des matchs de ce dimanche et toute l'actualité du jour. Allemagne-Suisse, donc un partout. La Hongrie qui gagne face à l'Écosse en toute fin de match 1-0. Le 32-16 est ouvert pour débattre avec nous, supporters de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Écosse, de la Hongrie, n'hésitez pas, et de l'équipe de France. On parlera également du reste de l'actu du jour avec le Mercato, Kurzawa, l'OM notamment au programme d'ici minuit et demi. Et puis je vous rappelle qu'on est à 55 jours de la reprise de la Ligue 1 et que le football français est toujours en faillite virtuelle. Aucun contrat de droit télé n'a été signé encore aujourd'hui. On attend les infos peut-être en début de semaine. On vous tient informé. Tu connais les 3 points, Ricardo?
Oui, les 3 points.
Flo va te montrer la voie. Les 3 points de jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Laurent, de quoi tu veux parler après cette journée d'Euro?
Eh ben, je vais parler de l'Allemagne qui s'en sort très très bien avec une sorte de non-match avec l'équipe titulaire. Donc la grosse question de ce match, c'est la compo de Nagelsmann qui avait choisi de prendre le risque d'avoir des joueurs suspendus, et ce sera le cas d'ailleurs pour l'un d'entre eux au moins. Donc la compo un peu surprenante de Nagelsmann et les joueurs qui n'ont pas répondu présent. En point 2, je vais mettre la Suisse, parce que la Suisse qui a fait un gros gros match ce soir, qui méritait de l'emporter d'ailleurs, qui méritait d'être première du groupe et qui aurait pu avoir une victoire historique. Puis le troisième point, je voulais revenir sur ce dernier match qui était le pire match pour moi de l'Euro quasiment depuis le début, là, le Hongrie-Écosse. Mmh. Un peu catastrophe. Mmh. Je suis content pour les Hongrois, mais franchement, je me disais avec le 0-0, ça éliminait les deux équipes et c'était pas plus mal comme ça.
Ricardo, tes 3 points.
Alors moi, mon premier point, ça va être un joueur, Dan Doy. C'est un joueur qu'on connaît un peu, oui. qu'on a un peu suivi à Nice, qui était un peu assez tendre. Mais j'ai vachement été bluffé par son match, hein. Surtout sa première période où il a vraiment dynamité la défense allemande par séquence. Ensuite, oui, un peu comme Flo, hein, c'est un peu la demi-déception allemande, hein. Vraiment une équipe qui est maîtrisée, mais à la fin qui s'est fait surprendre. Heureusement que leur super sub Füllkrug est venu remettre un peu de l'ordre.
Bravo.
Füllkrug, autant pour moi.
C'est de Strasbourg, mais...
Ouais, non, bah...
Ah, mais il est oublié, c'est le sud d'Alsacien.
Ouais, moi, c'est plus le sud d'Italie, Turquie, etc. Et puis, mon troisième point, malheureusement, ça va être la terrible, on va dire, blessure, ça peut dire ainsi, ou le choc, ou vraiment le...
Oui, on attend des nouvelles, d'ailleurs.
Ouais, la petite frayeur de Varga, en espérant que ce soit pas trop grave pour lui, même si ça n'a tout l'air. Mais encore une fois, c'est un peu comme Flo...
Des images... terrible parce que maintenant ils mettent un drap un peu, tu sais, pour qu'on ne voit pas le joueur souffrir. Alors et d'ailleurs les joueurs arborent le maillot de Varga là, d'ailleurs, enfin le capitaine Soboslai a mis le maillot de son pote. Donc j'imagine qu'ils ont quelques nouvelles quand même, si les joueurs sont comme ça, tu vois, c'est peut-être pas trop grave. J'ose imaginer.
Ouais, on a vu le coach Rossi, Marco Rossi sur le banc de touche, après la victoire il était pas tout sourire, hein, donc
Voilà, point classement. Donc l'Allemagne premier de sa poule, hein, grâce à l'égalisation de Füllkrug, 7 points. La Suisse est deuxième avec 5 points, donc les deux équipes sont qualifiées. La Hongrie a 3 points et devra donc attendre ce qui se passe dans les autres poules. Hein. Parfois avec 3 points ça passe, parfois ça passe pas. Ils ont un goal average de moins 3, ce qui est pas très avantageux quand même pour les Hongrois. Quant à l'Écosse, l'Écosse est éliminée avec un petit point. Précision quand même. Ce but de Füllkrug, il change beaucoup de choses. Parce que si l'Allemagne avait été deuxième, elle basculait dans le tableau de la France, d'ailleurs potentiellement, enfin, si tant est que la France termine première de sa poule, hein, donc ça aurait changé à la phase de l'Euro. Et là, Füllkrug, peut-être qu'il a fait souffler également petit vent de satisfaction
parmi les supporters. Et aussi à l'Allemagne le groupe de l'Espagne-Italie. Hein, aussi.
Exactement. Donc, parce qu'ils auraient pu prendre le deuxième du groupe Espagne-Croatie-Italie-Albanie, les Allemands. Ça aurait été assez excitant, cela dit.
Donc là, ils prennent le deuxième du groupe C.
Voilà, le deuxième du groupe de l'Angleterre. Angleterre, voilà. Slovénie, Danemark, Serbie.
Voilà. Prenable.
C'est sûr que c'est plus sur le papier. Et même si l'Angleterre est deuxième, j'ai envie de te dire, vu l'Angleterre qu'on fait depuis le début, c'est de toute façon, effectivement, une meilleure partie de tableau que...
Harry Kane face aux Allemands.
Harry Kane, le loser.
Pour le moment,
ce serait drôle. Polo Breitner nous rejoint. Salut, Polo.
Bonsoir, mon cher Gilbert. Salut, bonsoir, tout le monde.
Bon, salut, Polo. Toi, tu étais neutre dans ce match, Allemagne-Suisse. T'étais...
Ah oui, tout à fait. Ben, même en Suisse, j'avais pronostiqué 1-1.
Ah bien, ben, bravo.
Okay. T'as eu chaud aux fesses.
Voilà. Bravo, oui, bravo. Tout à fait.
Alors, tout de même, bon, on va parler de la Suisse tout à l'heure, qui est sans doute satisfaite de sa soirée, même s'ils ont été repris en fin de match. L'Allemagne, Polo, déjà, on démarre avec l'équipe type. Effectivement, je pense qu'on aurait pu supposer qu'il y ait quelques mouvements tout de même. Et puis, finalement, on a vu une Allemagne bien en galère. Je te laisse la parole pour démarrer l'analyse.
Bon, depuis le début de cet Euro, je vous dis que l'Allemagne est dans l'urgence. Donc la rencontre que j'ai vue ce soir, en dehors du fait qu'il faut féliciter la Suisse, plus que ça d'ailleurs, je relativise beaucoup les performances de la Nationalmannschaft depuis le début de cet Euro. L'Écosse n'a pas existé, le match contre la Hongrie est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien le dire. Y a des choix dans le 11 de départ de Nagelsmann. Il y a un moment, il va falloir qu'on parle de Kai Havertz. Hein. C'est pas son talent individuel, mais est-ce qu'il est valorisé dans ce genre de système? J'en suis pas persuadé. Et puis, on a quand même retrouvé une équipe, une Nationalmannschaft, qui est fébrile lorsqu'on lui résiste, ou lorsqu'on joue bloc bas, ou lorsqu'on est comme une horlogerie suisse, justement, dans ces complications. C'est-à-dire que cette équipe n'a pas de vécu, je le rappelle. On a trouvé ce 11 de départ il y a trois mois, il y a un trimestre, le match contre l'équipe de France. Ils explosent les Écossais, donc tout le monde s'emballe, la presse allemande en premier, évidemment. Mais on oublie de regarder l'analyse du match contre l'Hongrie dans le détail. On voit qu'un Mittelstädt, on m'aurait dit que Mittelstädt, il y a 2 ans, serait le titulaire de l'équipe d'Allemagne, j'aurais pouffé de rire. Donc, si tu veux, il y a quand même des choses. Andrich, il n'est pas titulaire à Leverkusen, c'est un remplaçant de luxe. Mittelstädt a fait une très belle saison à Stuttgart. Ce n'était pas en début de saison un titulaire au FOSB, puisque c'était le japonais Ito. Il y a des choses comme ça qui ne fonctionnent pas. Ensuite, est-ce que des joueurs sont pas au niveau? Est-ce que c'est le schéma de jeu de Nagelsmann qui est finalement beaucoup trop dangereux parce que l'occupation du terrain? Enfin, ce soir, j'ai eu l'impression de voir Manchester United contre Arsenal, c'est-à-dire une équipe de joueurs matures contre des prépubères. Et c'est comme d'habitude une équipe d'Allemagne. Alors, bien sûr, ils sont allés chercher avec Füllkrug l'égalisation, donc moralement, c'est très bon de finir premier de ce groupe. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Tous les contres étaient pour les Suisses. En général, c'est que ça veut dire qu'on sait qu'on les provoque. Il y a des ballons perdus par les Suisses. Wirtz n'a pas été excellent ce soir.
Kimmich.
Excepté sa passe sur Moussiala qui est extraordinaire et le talent est là. Mittelstädt, bon, tu pouvais le sortir à la mi-temps, ça servait à rien. Et voilà, c'est ça. Et puis, moi, en fait, je voudrais, si j'ai pas à dire, j'ai envie plus de parler de la Suisse, mais enfin, c'est un peu les cocus de l'histoire ce soir, les Suisses, parce qu'ils doivent finir premier de leur groupe. Ils ont fait une prestation extraordinaire. Le bloc bas a très bien fonctionné. Les contres ont très bien fonctionné. Murat Yakin qui te fait une fois de plus du Murat Yakin, c'est-à-dire Shaqiri qui met un but d'anthologie au deuxième match. Il est pas là. Il change les trois de devant. Et ça fonctionne super bien. Même les trois qui rentrent après, ça fonctionne super bien lorsqu'il se passe en 5-4-1. Non, voilà, il y a plein de choses. Alors, c'est un avertissement sans frais pour l'Allemagne. C'est très clair. on ne pourra pas empêcher Nagelsmann, ou s'empêcher, Nagelsmann ne peut pas s'empêcher de penser à son 11 titulaire. Rudiger, ça ne fonctionne pas, je suis désolé. Encore ce soir, c'était très très limite. Le Rudiger du Real Madrid, ben, il est encore à Madrid, quoi. C'est pas possible de jouer de cette façon. Et puis, voilà, le tournoi est lancé, c'est bien. Moi, j'ai avertissement sans frais et bravo à la Suisse, quoi.
D'ailleurs, t'as sera suspendu pour le prochain match.
Oui, ouais. Bah là, mais quelque part, je me demande, c'est pas un mal pour un bien, parce que c'est comme dit Polo. Rudiger, il est à la limite de la faute sur toutes les interventions. Il est à la limite donc du carton, parce que lui aussi était sous la menace d'un carton. Mais Kimmich, il a raté plein de trucs aujourd'hui aussi. Et puis alors, le circuit sur le côté droit là, il y avait que ça. Il y avait que le circuit côté droit. Il y avait rien, aucune inventivité. En fait, moi j'ai eu l'impression. J'ai pas forcément tout à fait la même analyse, mais c'est peut-être parce que j'ai vu moins de matchs récemment. Que les joueurs n'ont pas rendu à Nagelsmann le fait d'être, je parle de ce 11 titulaire, le 11 qui avait gagné, d'être à nouveau sur le terrain. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait le match comme les deux premiers.
Et s'ils n'étaient pas fatigués, Flo ? Roland, il disait ça avant la rencontre. Ouais. Il dit, regarde le nombre de trentenaires que t'as sur le terrain, qui sont plus proches de la retraite.
C'est d'autant plus surprenant. Ce que tu disais, je t'ai entendu avant le match. Je suis assez d'accord sur l'idée que j'ai l'impression que Nagelsmann, lui, il se dit, moi, j'ai intérêt à gagner les matchs parce que si je perds contre la Suisse, de toute façon, ça va être je vais en prendre plein la gueule. Donc, à la Giroud, je mets les mêmes. Sauf que, les mêmes, eux savent qu'ils doivent se gérer pour certains parce qu'ils ont un jaune, parce qu'il y a un huitième derrière et qu'ils sont trentenaires. On l'a senti, moi je trouve. Moi je trouve que dans l'impact, dans l'intensité, à part la qualité de passe à un moment donné, mais ils ont fait de la passe à 10, c'est un taureau, ils ont privé les Suisses de ballon pendant 3 minutes, mais il n'y avait pas vraiment de danger à la fin de l'action. Et après, ça a été terminé. Mais et la deuxième chose sur la Suisse, tu dis bloc bas, c'est vrai, mais début de deuxième période, c'est là où quand même tu vois qu'il y a quand même une petite influence à la fois dans ses compos et dans ce qu'il leur dit à la pause. Ils sont revenus sur le terrain, ils étaient montés de 30 mètres. Ouais. Et la deuxième période, ils ont maîtrisé quasiment la deuxième période.
Ou alors complètement en changé aux Suisses. Mais Polo, pour revenir à l'animation allemande, justement, tu parlais de Kai Havertz, plutôt décevant ce début de compétition. Tu le verrais où idéalement dans un schéma de jeu côté allemand, côté gauche, électron libre.
Ça fait 5 ans qu'on parle de ça en Allemagne. Ouais. C'est quoi son meilleur poste à Kai Havertz? Moi, son meilleur poste, ce que j'ai connu lorsqu'il était à Leverkusen, c'est soit derrière un attaquant de pointe, soit en 3-4-2-1 où tu le fais jouer côté gauche, côté droit et de préférence côté droit. Mais ça veut dire beaucoup de choses parce qu'il faut rendre compte ce que c'est Kai Havertz. Kai Havertz, si tu écoutes Jürgen Klopp, c'était le plus grand talent du football allemand depuis des années, etc. Mais en fait, on ne sait pas quel est son poste sur le terrain. C'est un mélange de Ballack et de Mesut Özil parce qu'il a une qualité de passe assez extraordinaire. Ouais. On l'attendait comme le leader de cette nouvelle Nationalmannschaft et finalement, ben, il est un peu dans le flou à ce niveau-là et on ne sait jamais ce qu'il fait. Moi, je pensais au départ que Kai Havertz était titulaire version Nagelsmann pour jouer contre les grosses cylindrées et que Füllkrug jouerait contre les équipes entre guillemets comme l'Écosse ou la Hongrie en ayant plus de présence dans la surface. Ben, c'est pas ce qu'il fait. Encore une fois, moi ce soir je suis super déçu évidemment par la prestation de Kai Havertz qui de toute façon un peu comme Leroy Sané quand il est pas bien dans une rencontre, ça se voit tout de suite sur son faciès. Quoi. Ouais. Et c'est pas positif au niveau de ce que la façon dont tu en vas les messages que tu envoies pour la sélection ou tes collègues. Mais ce soir, ok, Kai Havertz, ouais, Toni Kroos, on l'a vu ce soir? Non. Le seul que j'ai envie de sortir, c'est Manuel Neuer, parce qu'il peut rien sur le but qui se prend, et il n'a pas énormément d'occasions.
Non, et dans les remplaçants, c'est pour ça que j'en reviens quand même à la compo. Dans un match comme ça, tu as la chance, si tu donnes du temps de jeu à ceux qui sont sur le banc, d'avoir des morts de faim, entre guillemets, ouais. Ce que tu n'as pas eu ce soir. Et ceux qui sont rentrés, j'ai bien aimé, avec quelques déchets techniques, celui qui était sur le côté gauche, là, à la fois Raum et puis.
Max Bayer.
Ouais, Bayer. Ils ont quand même. Et d'ailleurs, ça a amené un peu de la percussion côté gauche. Donc, je pense vraiment qu'en gros, moi, je dirais, si j'étais sur un plateau en Allemagne, je dirais, si c'était Deschamps, je dirais Nagelsmann s'est trompé.
Fais-le en allemand, s'il te plaît.
Ouais. Il s'est trompé. À mon avis, il s'est trompé en faisant ce pari de remettre l'équipe qui gagne. Et c'est vrai que quand j'ai vu rentrer les remplaçants, bon, j'ai appelé de mes voeux Füllkrug, j'ai dit, il va marquer. Ah, ok. Oui. Mais Füllkrug, est-ce que t'as pas envie de le voir titulaire au prochain match, quand même si j'ai bien compris, bah oui, c'est un joueur d'impact et ça marche, puisque à chaque fois qu'il rentre, il marque. Mais quand même, là, franchement, Füllkrug, il apporte quelque chose. Sur sa première tête, justement, qui est une tête un peu à la Giroud pour Havertz, qui s'en sert très mal, il fait pas ce contrôle de poitrine,
il retire le maillot un peu.
Bon, c'est pas simple, mais en tout cas.
Et t'aurais pas envie de jouer avec cette équipe en 4-4-2 avec deux milieux offensifs excentrés, Wirtz et Moussiala, et tu joues avec Füllkrug et Havertz, tu reviens un petit peu. Alors évidemment, on nous nous dirait oui, mais Kroos et Gundogan, ils travaillent pas assez pour la récupération et ceci. Mais j'aurais envie.
Franchement, là, vu, mais c'est presque plus simple. Vu qu'Avertz a raté ce match. Parce qu'il avait marqué quand même dans les autres matchs. Vu qu'il a raté ce match, personne ne reprochera à Nagelsmann de tenter Füllkrug, tu vois, et effectivement, pourquoi pas avec un deuxième attaquant. Mais en tout cas, il apporte beaucoup de choses. Et dans finalement, tu as raison, cette Allemagne qui est un peu limitée quelque part, ce type de joueur-là, et ce profil-là est ultra utile. Et je suis surpris d'ailleurs qu'il l'ait fait entrer que à la 75e. C'était assez étonnant d'attendre comme ça un peu. Il a fait d'abord ses changements défensifs, puisqu'il a sorti Mittelstedt, il a sorti Ta, puisqu'il craignait même un rouge pour Ta, pour un deuxième jaune. Et il a fait les changements offensifs un peu plus tard, avec Sané et Füllkrug. Mais moi, j'appelle vraiment de mes voeux un Füllkrug titulaire. J'ai envie de le voir plus longtemps.
Là, ça reste compliqué, parce que là, on rentre en 8e de finale. Je ne pense pas qu'il va commencer à innover en changeant. Je pense qu'il va rester sur les mêmes dispositions. Mais ça n'augure rien de bon pour l'Allemagne. J'ai l'impression que.
Tu n'es pas très optimiste pour les Allemands, là?
Non. Bon, la chance qu'ils ont, comme tu l'as dit Gilbert en début d'émission, c'est qu'ils ont évité, entre guillemets, le groupe de la mort avec les Espagnols, les Italiens, les Croates potentiellement. Et ils auront encore un tour pour monter monter dans les tours. Mais on a l'impression que, voilà, en tout cas, cette animation-là, avec les joueurs mis en place de la sorte, ils sont très limités. Hein, je pense que ça peut être compliqué pour eux pour la suite.
Et défensivement, c'est quoi? Ce sera Schlotterbeck là, qui est entré, qui va être
charnière centrale. Ce sera Schlotterbeck qui va jouer avec Rüdiger. J'espère qu'il va tenter la chance de David Rome à la place de Mittelstedt. Moi, j'espère.
Ah oui, moi, je suis moins négatif que toi sur Mittelstedt. Parce que
il est assez neutre en fait.
On l'a beaucoup vu offensivement des centres, tu vois.
Ouais, non. Il a raté beaucoup techniquement. Ah ouais. Il a un problème, c'est que dès qu'il est plus en confiance, ça se voit tout de suite aussi. Et puis moi, je pense que tu peux faire une excellente. Enfin, il a déjà 28 ans. Je veux dire, Mittelstedt, je crois, excepté cette saison, ou parfois peut-être un lundi dans l'after, mais parce qu'il a marqué un but extraordinaire, mais on en a jamais parlé en 15 ans que je suis avec vous, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a au bout d'un moment, quand t'as 28 ans et que tu arrives comme ça. Avec la queue de la comète dans la sélection parce que t'as joué le match contre la France et ça a fonctionné. Ok, ou alors tu joues dans une défense à 3 et tu fais monter Mittelstedt en piston coach vraiment, quoi, parce que défensivement il est pas exceptionnellement là. Il a même joué beaucoup de matchs en Bundesliga au poste d'ailier gauche, donc c'est quand même un peu compliqué tout ça. Moi je préférerais un peu un David Rome. Et rappelez-vous, tous les deux ans il y a un nouveau latéral titulaire. C'était Günther la dernière fois, il y a eu David Rome, il y a eu Gosens, etc. Donc c'est qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là, au niveau de la sélection. Mais je suis très heureux de cette rencontre pour les Allemands, parce que ça les met en face de ce qu'ils sont vraiment, et non pas des grands favoris de leur compétition, etc. Il y a des équipes qui sont largement au-dessus, de mon point de vue, quand tu vois le collectif de l'Espagne, par exemple, tu peux te poser des questions sur les Pays-Bas, sur la solidité de la France, etc. Et donc, il va vraiment falloir que la Nationalmannschaft réfléchisse qu'est-ce qu'elle doit améliorer à court terme, parce qu'encore une fois, il n'y a que de l'urgence chez Nagelsmann, et pour faire un huitième de finale, et comme normalement, vu que c'est le groupe de l'Angleterre en huitième, ça devrait être un tirage au sort relativement facile, je dis bien relativement, parce que maintenant on est en élimination directe. C'est peut-être là que Nagelsmann, et c'est peut-être le moment, je pense. Bon, Schlotterbeck sera là, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il ne faut pas essayer David Rome? Est-ce qu'il ne faut pas mettre Füllkrug à la place de Kai Havertz? Et puis l'hypothèse du 4-4-2. Mais ça, c'est. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Et après, ça peut déclencher une nouvelle chose. On peut pas s'appuyer toujours sur Moussiala. Virs, c'est compliqué. On voit bien qu'il est complètement cramé. Alors, encore une fois, la passe sur Moussiala, elle est extraordinaire. Le talent, il est là, ok. Mais tu peux pas, pendant 90 minutes, faire les bons choix, etc. Il y a trop de déchets ce soir. Il y a trop de joueurs moyens, voire médiocres, pour espérer soulever le titre.
On continue le débat dans quelques instants. Les gars, on aura Vincent au 32-16. Flo, garde ton argument. Ouais. Je précise juste, parce que je suis en train de faire les tableaux, tout ça, là, que l'Allemagne, potentiellement, s'il passe le 8e, pourrait retrouver l'Espagne en quart.
Bah, c'est ça, ouais.
Voilà. La logique serait celle-là. Ce qui promet un beau quart de finale. Là, je ne suis pas sûr que l'Allemagne soit favorite, vu ce qu'ils nous ont montré. Dans un instant, on continue le débat avec vous au 32-16. Ensuite, on parlera de l'autre match, la victoire de la Hongrie face à l'Écosse. Et puis l'équipe de France, bien sûr, comme on n'a pas souvent Ricardo dans l'after, on attend son avis avec impatience sur les Bleus. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h22, Florent Gautreau est là, Ricardo Patti avec nous pour le Breitner. On a un petit souci, enfin YouTube a un petit souci ce soir, donc on ne peut malheureusement pas être sur YouTube, désolé, exceptionnellement. Mais on est sur RMC et on est en podcast pour tous ceux qui nous écoutent. Oui, Flo ?
Non, je voulais dire un mot sur Moussiala quand même, parce que autant après j'ai trouvé qu'il s'éteignait et qu'il y avait de la fatigue, sans doute, d'où l'histoire du changement nécessaire, à mon avis, et de la compo un peu bizarre de Nagelsmann. Mais en revanche, c'est quand même Moussiala qui, en première période, vient, décroche, joue intérieur quand il faut jouer intérieur. C'est quand même lui, le détonateur, le joueur qui a pu apporter quelque chose offensivement. Donc c'est sûr que là ce soir c'est pas un très bon match de l'Allemagne, l'animation offensive n'est pas bonne, mais quand même il a été percutant. Après c'est d'autant plus le moment, à mon avis, à un moment donné, pour les faire tourner. Alors ils ont tourné quand même puisqu'ils ont été remplacés, les deux Wirtz et Moussiala, mais je vois quand même plus de punch et de vivacité chez Moussiala que chez un Wirtz qui déjà en fin de saison montrait des signes de d'essoufflement. Donc ça reste quand même pour moi le facteur X un peu là, Moussiala, hein. C'est-à-dire que si t'as un très bon Moussiala, je pense au 8ème de finale, au match à venir là, ça va être capital. On parle de Fulcro, que ça je suis d'accord,
mais... ça pèse pas devant Flo, c'est-à-dire que le problème, Kai Havertz, il attend en fait ce que fait le génie de Moussiala, et le problème c'est qu'on a besoin de quelqu'un dans la surface qui embête, qui fasse des décalages et qui permette de trouver de faire des espaces. Je voudrais juste dire un truc, ce soir tu regardes les statistiques, il y a 18 à 4 des tirs pour les Allemands, et il y a rien du tout, c'est-à-dire que les statistiques, faut faire attention à... ça veut rien dire parfois quand tu vois cette rencontre,
comme d'hab.
T'as une masterclass de la Suisse ce soir quand même,
comme la célèbre phrase de Pantaloni.
Pardon, excuse-moi.
Je ne connais pas la phrase de Pantaloni.
Non,
pour les stats.
Il dit les stats, c'est comme les mini-jupes, ça donne une idée, mais ça ne montre pas l'essentiel.
Ouais, mais quand t'es un vieux comme moi, c'est bien de pas montrer l'essentiel, tu découvres.
Mais vrai que t'as raison, les stats, elles sont assez éclairantes. Mais alors, mais oui. Cela dit, après, moi je dirais masterclass de la Suisse, presque surtout au fur et à mesure du match. C'est ce que j'ai aimé, c'est leur évolution, et quelque part tactiquement je trouve qu'ils ont encore été plus forts dans la deuxième partie du match, parce que en première partie j'ai cru qu'ils allaient beaucoup courir après le ballon et se fatiguer à ça, et que l'Allemagne allait au bout d'un moment, tu vois, réussir son travail de sape. Ce que j'ai bien aimé, c'est à la fois qu'ils aient été aussi chirurgicaux, effectivement, ça, oui, je trouve qu'en trois passes, ils arrivent parfois à se procurer une occasion. Mais ce que j'ai aimé aussi, je te disais tout à l'heure, c'est que en deuxième période, je pense qu'ils n'auraient pas pu tenir comme ça 90 minutes, donc ils ont su changer avant, avoir le coup d'avance, toi qui aimes les échecs, pour se dire, tiens, on va monter plus haut, on va monter le bloc. Et Vargas a été hyper important, moi, j'ai trouvé, bien pour sûr. Ça aussi dans sa rentrée.
Non, mais c'est... Moi, je sais que Moratiakine est très critiqué, moins maintenant. Moi, j'étais le premier à critiquer lorsque j'intervenais en Suisse aussi, quand je voyais les matchs de qualification qui étaient très pauvres techniquement. Mais on peut dire ce qu'on veut, mais le côté métronome des Suisses, le fait qu'il change, il en est à 37 matchs à la suite sans avoir mis le même 11 au départ. C'est un truc assez extraordinaire. Il change à chaque fois. Il demande à des joueurs qui mériteraient d'être titulaires. Mais non, tu vas pas jouer ce match-là, mais tu vas être prêt pour le match d'après, parce que regarde comment il joue, et toi, tu vas briller sur ce genre de match.
Shaqiri joue pas encore ce soir.
Shaqiri n'est pas titulaire encore ce soir. Enfin, c'est quand même la vedette au minimum offensivement.
Oui, à chaque fois, on le dit.
Non, mais ce qui est génial, c'est
qu'en course en MLS, Shaqiri.
Non, mais d'accord, mais regarde, ce qui est génial dans ses choix, c'est que ses choix, c'est pour ça que je fais le parallèle avec Luis Enrique. Vraiment sans aucune ironie, hein. L'imprévisibilité d'abord pour l'adversaire, puisque c'est une des thèses de Luis Enrique, mais moi je trouve que c'est la réalité aussi. L'imprévisibilité pour tes propres joueurs, mais aussi le fait que tu concernes tout le monde. Ouais. Là, Fabian Rieder, que je connais bien, qui est un très bon joueur, technique, très intéressant, mais que je ne trouve pas assez décisif. À Rennes, il a été un peu difficile, mais c'est un très bon joueur qui ce soir a plutôt fait un bon match. Mais tu te rends compte qu'à chaque fois, ça veut dire que n'importe quel joueur là, beaucoup de joueurs en Suisse peuvent se dire, moi, il est possible que je sois titulaire au prochain match. Alors que pour certains, tu vois, les 11 sont inamovibles. Donc je trouve que cette faculté de faire ça. Alors évidemment, après, il a des résultats avec lui qui lui facilite la tâche. Ouais. Aucun joueur peut dire, peut critiquer son coach.
Il a Kanji quand même en le maître de la défense, quoi.
Alors attendez, partons pas sur la Suisse.
Oui, bien sûr, il y a quand même des joueurs comme ça.
On a Vincent qui est là au 32-16, qui est supporter de l'Allemagne. Salut Vincent.
Salut Vincent.
Bonsoir les gars.
Salut, tu voulais parler de Nagelsmann?
Ouais, moi perso je trouve que c'est une escroquerie. Cet entraîneur-là, il a fait une saison incroyable avec Leipzig, et parce que c'était Leipzig, mais je comprends pas pourquoi il est sélectionneur de l'Allemagne. Deuxième chose, Tout à l'heure, Polo, il a dit à l'avant-match que Nagelsmann prenait les joueurs prêts à l'instant T. Mm-hmm. Je voudrais savoir pourquoi Füllkrug ne joue pas. Le mec, il va quand même faire une finale de Ligue des Champions. Il nous a pratiquement tué avec Paris à faire courir les deux défenseurs centraux et le mec, il est sur le banc. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Okay. Kai Havertz, c'est le joueur qui arrive pas à dépasser, qui a dépassé les 10 buts en championnat que 3 fois seulement dans sa carrière. Et il est titulaire. C'est un truc, c'est incroyable. Nagelsmann, je comprends pas ses choix du tout.
Non, mais après, il faut pas seulement voir par rapport aux statistiques. Il faut aussi voir l'animation qu'il veut mettre en place. Il a vu que ça marchait bien avec Füllkrug sur le banc. On l'a encore vu ce soir. Alors certes, nous on est partisans peut-être d'un changement d'animation, un changement tactique. Après Nagelsmann, je pense qu'en Allemagne, après je parle sous la caution de Polo, c'est que il représente aussi le futur, un nouveau football. Après tu dis qu'il a été bon qu'à Leipzig. Bon, il a aussi rapporté un titre au Bayern.
Là, il a fait beaucoup. Il a fait des trucs à Hoffenheim à l'époque, était véritable, extraordinaire ce qui se passait.
Donc ouais, après il représente un peu le futur du football allemand. Il essaie de mettre en place des choses. Alors certes, ça marche pas tout le temps. Même on parle depuis tout à l'heure du positionnement de Kai Havertz. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, pour aller dire que c'est une escroquerie, non.
On a le droit de dire aussi qu'on n'est pas forcé de remporter un euro en remportant toutes ces rencontres 3-0 à chaque fois aussi. Hein.
Oui.
C'est compliqué un euro. Ouais. C'est compliqué un euro à gagner. Donc voilà, moi j'adore cette rencontre honnêtement parce que je vois la mauvaise Allemagne entre guillemets que j'ai souvent vue sous Nagelsmann ou d'autres Hansi Flick, etc. Parce que ça commence c'est long quand même tout ce processus de revenir à très haut niveau. Mais c'est passionnant parce que est-ce qu'il va de lui-même se dire ok en huitième de finale je dois changer ou est-ce que je vais rester dogmatique avec mon même 11 de départ à vert s'il va bien réussir à exploser et qu'est-ce qu'on fait en quart de finale
ouais, est-ce c'est que je remets question.
Voilà ouais. c'est
enfin bon, quand même la grosse différence alors moi je sais pas comment il agit systématiquement Nagelsmann mais il avait gagné ses deux premiers matchs de manière plutôt convaincante même si les adversaires étaient ce qu'ils étaient. Ça te légitime dans tes choix. Là, il est pas fou non plus. Il a quand même vu le même match que nous. Je pense quand même. Je dis pas qu'il y a forcément.
Je suis pas toujours sur Flo. Que les coachs voient les mêmes matchs que nous, sans dire qu'on a raison d'ailleurs. Ouais, mais ouais. Mais parfois, je sais pas. Moi, je vois pas.
Toi,
les
tu
mêmes
penses qu'il
nous.
Est, par exemple, tu penses vraiment crédible en dehors de ta évidemment qui est suspendu. Tu penses très crédible de voir à peu près les mêmes 9 autres joueurs, enfin de champ.
Non, j'aimerais bien David Rome à la place de Mittelstädt côté gauche, et j'aimerais soit on passe en 4-4-2.
Non mais tu penses qu'il peut le faire vraiment ou
moi, je pense qu'il le fera pas.
Je pense que la presse allemande va commencer à mettre une certaine pression sur certains joueurs. Et la presse allemande, elle est quand même très 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 violente à ce niveau-là. Là, ça va être un coup de casque, mais aussi sur la presse allemande qui se voyait déjà championne d'Europe. Donc il y a plein de choses qui ce soir sont passionnantes parce que l'after était en avance sur ce que disaient les Allemands, sur la presse allemande. Donc ça, c'est une bonne chose.
C'est toi, Apollo, ne fais pas.
Mais non, c'est pas moi.
Ne fais pas le modeste.
Je suis toujours collectif. Mon cher, tu sais que je n'aime pas
quand les gens. Retiens cette phrase de Mourinho, la modestie, Dieu m'en préserve.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu peux pas du jour au lendemain trouver comme ça une équipe formidable qui devient parce que t'es chez toi, etc. C'est très bien le public est là, les coefficients, les parts de marché, la télé marche très bien en Allemagne, etc. C'est génial. Mais il y a la réalité du terrain. T'as pas une équipe de peintres en face. Les Suisses, c'est pas neuf. Si chaque fois, tous les deux ans, ils sont en huitième de finale, même en quart d'un euro en 2021, il y a des raisons à ça. Mais il y a une génération dorée qui fonctionne bien. La plupart sont passés en Bundesliga, ils connaissent
bien
tout,
sûr,
etc. Ouais. Tout ça, c'est, ça fait
l'histoire,
partie.
L'histoire d'un euro.
Alors, je vois si juste Vincent, un truc à rajouter, parce que, ils t'ont répondu, là, Polo et Flo et Ricardo. Vincent, tu vas rajouter quelque chose?
Ouais, ils m'ont répondu plus ou moins, je te dis. Pour moi, Kai Havertz, il a rien à faire en pointe, hein.
Ah, ben ça, globalement, tout le monde est d'accord.
Tu regardes le match, le mec, il est pas à son poste. À un moment donné, c'est aussi à Nagelsmann de regarder des choses.
Et tu le mets où?
T'as full group, t'as full, de quoi, Kai Havertz?
Ouais.
Ben, moi, je le dégage de l'équipe. Qu'est-ce que j'en fais de ce joueur-là? Il dégage de l'équipe, il ne sert à rien.
Non, Vincent, peut-être penser à une animation, éventuellement.
Mais tu sais. C'est pas pour être méchant, mais au milieu de terrain, t'as vite. T'as Moussiala et à gauche, de côté, je sais plus c'était
qui. Avec Gundogan qui était en soutien, plus ou moins.
Ouais, Gundogan en 10 et.
Moussiala et Moussiala à droite.
Ouais. Je suis désolé, un attaquant de pointe, un mec comme Füllkrug, il a rien à faire en pointe. Bien sûr que si, plus que Kai Havertz.
En tout cas, tu sais, Vincent, l'histoire d'un, d'un tournoi, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu commences pas le tournoi avec la même équipe avec laquelle tu le finis. Enfin, si pour bonheur, tu vas loin. Et l'histoire de ce tournoi, c'est peut-être ça aussi, comme dit Polo, le match, il sert à ça, de révélateur à tout ça. Qui te dit que Schlotterbeck ne deviendra pas le titulaire et définitif de la charnière, et probablement d'ailleurs, et que Füllkrug va devenir l'attaquant de l'Allemagne jusqu'à fin, et le Füllkrug peut être le héros allemand, quoi. Donc, c'est aussi l'histoire d'un tournoi. Rarement.
Le groupe peut être le Toto Schilacci.
Exactement, sauf que Schilacci, de mémoire, il était titulaire, non?
Je suis pas entendu, tu
vois. Je comparais Fulcrook à Toto Schilacci de 90. Ça,
mais Fulcrook, déjà, il est plus connu quand même. Il a joué finale de Ligue des Champions, que je crois, de mémoire, que Schilacci à l'époque, qui venait un peu de nulle part. Bref. Mais bah, en tout cas, c'est ça aussi un tournoi. Ça vaut pour toutes les équipes, hein, d'ailleurs, pour plein de raisons. Blessures, suspensions, révélations. Oui. Et c'est vrai que parfois, il y a des défaites utiles, parce que moi, dans ma tête, c'est presque, je dis défaite, c'est un match nul, mais dans ma tête, je les voyais tellement perdre ce match, les Allemands, qu'en tout cas, c'est des moments importants. Alors, on va voir ce que Nagelsmann en fait, mais c'est des moments qui peuvent être importants, et on dira après dans l'analyse, ça a permis de changer
ça. Le match de la Suisse a permis de...
Bah, bien sûr, ouais, enfin, faut espérer.
Je remercie Vincent au 32-16, la Suisse dans quelques instants, et ensuite la Hongrie et l'Écosse, avant de parler d'équipe de France. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à 12h30. L'After Foot intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h36, Ricardo Fati est là ce soir, Florent Gautreau, Polo Breitner. On a longuement parlé de l'Allemagne, il a parlé de sa poule. Donc avant maintenant de la Suisse. Les gars, Yakin, il en a pris pour son grade dans l'after déjà depuis le début de l'Euro. Bon, enfin au final, pour l'instant cette première phase, on va dire, est plutôt positive, même si là ils sont pas premiers, Polo. Bon, ils étaient dans le groupe de l'Allemagne. Je pense qu'il n'y a rien d'infamant non plus pour les Suisses à finir deuxième. Alors la difficulté pour eux, c'est que là ils vont peut-être se prendre l'Italie, quoi.
Alors, heureusement que tu ne dis pas ça et que tu n'es pas invité en Suisse à dire non mais c'est pas mal de finir deuxième. Parce que vu l'évolution du football suisse et la pression de plus en plus, l'exigence mise par les médias suisses sur au point que parfois je les trouve un petit peu trop optimistes, je pense que tu te serais fait engueuler ou reprendre de voler par quelques journalistes suisses. C'est-à-dire que pour moi, la Suisse est extraordinaire. Maintenant, je te rappelle ce que j'avais dit après la victoire contre la Hongrie, bonne chance à l'équipe qui va jouer la Suisse en huitième. C'est possible que ce soit l'Italie, normalement. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait leur promettre aux Suisses. Et ce qui est très intéressant...
Pour le coup, est-ce que tu es prêt à traduire la première réponse de Nagelsmann?
Bah, si j'entends bien, oui, allez-y.
Allez, on va tenter.
Sich mehr oder weniger selbst erklärt hat, die Spieler wollten unbedingt noch einen Unentschieden, das hat man gemerkt.
Das ist der Journalist, qui pose la question.
Kurz vor dem Tor schon mal eine noch bessere Situation, wo wir noch mehr Fläche hatten, wo Fülle den Ball schon
verlegt hat. Il y a trop d'espace, pas assez de superficie.
Ziemlich stark die Dynamik flanken.
On n'a pas été assez dynamique sur les centres, sur les côtés.
Ja, dann am Ende, glaube ich, ist schon ein sehr verdienter Punkt.
Wir haben natürlich ouais, c'est un, alors il dit, Nagelsmann dit que pour la Nationalmannschaft, c'est un point gagné.
Kannst du natürlich ein zweites Gegentor kriegen.
On peut discuter, bien entendu, parce qu'on aurait pu s'en prendre un deuxième but. Mais il y avait un petit hors-jeu, mais on devait absolument risquer pour revenir à l'égalité. Et c'est une bonne chose qu'on ait pu rester, qu'on ait pu revenir au score. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but de la part de la Suisse. On a largement dominé. J'ai pas le taux de pourcentage, 68-70%. Mais on s'est bien débrouillé.
Mais
on a réussi à bien se débrouiller défensivement au milieu et offensivement parlant. On a réussi à bien réagir. Mais en face, c'était un adversaire extrêmement extrêmement efficace et très très fort. Il parle très vite, hein.
C'est l'habitude allemande de faire des réponses de 4 minutes. On voulait écouter la première. Et surtout, on voulait tester. Parce qu'on ne savait pas 10 ans après si tu parlais vraiment allemand. Mais ça y est, maintenant, on a la confirmation. Bravo, Polo. On va réfléchir à une augmentation, peut-être. On va voir.
Tu marques, hein.
Bon, pardon. Revenons à la Suisse. On doit se finir, Deutsche Mark, il est fou.
Ou en France-Suisse, si tu veux.
En France-Suisse.
Ah oui, mieux. Une mallette, carrément. En liquide, surtout.
Bon, donc, tu disais, oui, l'exigence suisse a monté d'un cran.
Ouais, alors à ce niveau-là, c'est un peu rigolo parfois parce que tu as l'impression qu'ils vont remporter le championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, mais c'est vrai que à force d'avoir fait des résultats et d'être des véritables métronomes à chaque fois en huitième de finale puis ou en quart en ayant passé leur fameux plafond de verre contre la France en 2021, bah tu sais qu'ils sont capables de faire ce genre de rencontre. Et avant la rencontre, je disais que c'était exactement le genre de match qu'ils adorent, c'est-à-dire qu'ils sont pas les favoris, mais ils montrent qu'ils peuvent embêter toutes les grosses nations du monde. Je rappelais avant la rencontre que ils avaient fini devant l'Italie pour la Coupe du Monde, les qualifications Coupe du Monde 2022. Ils restaient, maintenant ça fait quand même 4 matchs où ils sont invaincus contre l'Allemagne, une victoire 3-0. Ils ont battu en Ligue des Nations l'Espagne, ils ont battu le Portugal, la seule grosse nation, et les Pays-Bas aussi si je me rappelle bien, la France évidemment à l'Euro 2021, et la seule nation, grosse nation qui ne l'ont pas battu, c'était l'Angleterre, où il y avait eu cette fameuse demi-finale en Ligue des Nations 2018 qui s'était finie au pénalty. Ils ont été chercher le match nul contre le Brésil, etc. Et tu as cette génération, parce que Shakiri était déjà là depuis la Coupe du Monde 2010, faut pas l'oublier hein, quand même, même s'il avait joué que 12 minutes. Tu as en fait les vieux de la vieille qui sont toujours là, les Granit Xhaka, les Sommer, et il y a le même débat en Suisse qu'en Allemagne, hein, entre Sommer et Kobel, hein, et entre Manuel Neuer et Ter Stegen. Et ben, tu te rends compte qu'ils sont toujours là, et ce que j'adore, c'est que tu as l'impression que maintenant qu'ils ont une telle expérience de ces tournois définitifs, je fais une traduction littérale en allemand, la période finale de la compétition, je vais y arriver, que ils sont toujours là, alors que leur qualification a été assez dramatique et qu'il a fallu attendre leur dernier match pour qu'ils repassent dans une défense à trois parce que Murat Yakin a enfin compris qu'il n'avait pas de latéral gauche. Donc bon, c'était intéressant.
Ricardo, tu avais mis Ndoye dans ses trois points.
Oui.
Donc là, tu t'estimes qu'il y a, t'as vu une belle progression là entre son passage à Nice et aujourd'hui.
Exactement. Il a fait un pas en arrière hein, pour rejoignant le FC Bâle après son passage à Nice. Je pense que à l'époque, il y a déjà presque 4 ans déjà, 3-4 ans. Il était un peu tendre, un peu trop frêle pour la Ligue 1, un championnat assez athlétique, et justement le fait que Bologne le récupère de la Suisse, et comme on dit en italien, comme un peu comme Polo, je transpose avec l'italien, il a fait le saut de qualité. D'accord. Il a vraiment progressé, je pense qu'il a bien travaillé sous la houlette de Thiago Motta en Italie, et puis il a fait une superbe saison à Bologne. Je pense que nous avons le joint de crochet, on a beaucoup parlé ici. Et pour le coup, bah là on le voit dans une grande compétition, et c'est pas forcément le leader d'attaque de la sélection, mais en tout cas il montre des belles choses. Il a bien montré, j'ai l'impression qu'il répond bien aux consignes de Yakin.
Faut qu'il soit plus sûr.
Ouais, plus sûr, mais en tout cas il montre des belles choses hein. Il est très dynamique, proactif. Ouais.
Il y en a un qui s'est fracassé là sur Derek Studio, c'est Mbolo. Hein. Il y a des supporters suisses qui disent celui-là.
Ouais, mais Mbolo, il revient de blessure. Donc il était blessé, il revient progressivement, il joue pas tous les matchs à 90 minutes. Comme l'a bien dit Polo, ça tourne, ça varie. Donc il est partie intégrante de l'effectif, du collectif. Et pour moi, il, à l'image de l'équipe, il tourne bien. Hein. Mbolo.
Oui, puis en plus, il sait conserver le ballon. C'est-à-dire que son physique lui permet. Il a embêté la défense Rudiger Ta ce soir en faisant des bons choix à ce niveau-là. Non, mais il revient de blessure. Hein. C'est bon. Il peut, déjà, on savait même pas s'il allait pouvoir jouer l'Euro. Ouais. Là, finalement, lors du troisième rencontre, il joue une heure. Mais c'est génial. Ce qu'a fait Murat Yakin ce soir avec Ndoye, Rieder, qui a eu un seul défaut dans sa vie, c'est de partir en L1 plutôt que de partir en Bundesliga. Mais c'est vrai, quoi. Et là,
Ndoye.
Et à Rennes, en plus, tu vois.
Ah mais il a pas réussi. Et Rieder, c'est un point intéressant parce que tu vois voir titulaire là dans le match avec des responsabilités. D'ailleurs sur le but, il est partie prenante de l'action qu'amène le but suisse. À Rennes, il est plus utilisé, tu sais, comme remplaçant. Et je trouve qu'il a plus de mal, tu sais, en entrant en jeu qu'en étant un peu dépositaire, quoi. Parce que techniquement, il est très bon, est bon sur les coups de pied arrêtés. Il est bon, excellent. C'est un très bon joueur.
Moi, je pense que c'est un peu comme Doyle, quand à son arrivée en France, il manque un peu, on va dire. Ce côté un peu d'épaisseur athlétique pour
la Ligue 1 aussi. Hein. Athlétique et caractère.
Caractère aussi.
Par exemple, j'ai regardé l'action et je vais te dire, à Rennes, je l'ai remarqué plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Le caractère au sens, le côté même un peu garce, le côté. Voilà. Ouais. Là, ce qui s'est passé avec Rudiger, par exemple, est typique. Rudiger lui a marché dessus dans au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il a fait une intervention. Moi, je dirais qu'il n'y a pas faute dans un premier temps. Derrière, Rudiger se trouve sûr. Allongé sur Rieder et le pied et fait ce qu'il fait d'habitude, il le piétine, il se roule dessus et après il le relève en voit qu'il n'y a pas faute. Et là Rieder tout gentil lui tape dans le dos en disant ok non il y a rien. Ouais. Tu vois, je veux dire il faut qu'il s'impose, il faut que Rieder il a dans le début du match, il est un peu, c'est par lui que passent les ballons, mais même là il a toujours tendance à les donner à un moment donné, là où il faudrait peut-être aller tenter, frapper. Il lui manque un truc, je dirais presque plus psy, tu vois, que c'est pas la technique hein, qui lui manque à lui. Mais voilà, après ce soir, il fait plutôt un bon match. Et effectivement, à Rennes, il n'a pas eu trop sa chance. Mais il faut dire que ses entrées en jeu n'ont pas été vraiment significatives. Quoi.
Polo, merci beaucoup.
Merci à vous les amis.
Merci, merci.
Et à très vite.
Et au passage pour Ndoye, le seul truc qui aurait pu lui arriver de très mauvais aujourd'hui, c'est, et il l'a sorti aussi pour ça, à mon avis, c'est le deuxième carton. Parce que il a fait une faute un peu inutile, il a eu deux trucs, l'arbitre l'a un peu sauvé à un moment donné en lui donnant pas quelque part, parce que ça aurait été très dur. Et je sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles il est sorti aussi, mais en tout cas, c'était bien vu Diakine aussi.
Ça sera premier vrai test, le prochain match, hein. Ouais. Ce fameux groupe de la mort, Espagne, Italie, voire Croatie.
Mais c'est vrai que pour leur raison, hein, c'est un test aussi pour les autres, parce que se taper la Suisse,
si c'est Suisse-Italie, franchement, quand on a vu l'Italie et la Suisse là, bon, on verra, c'est l'Italie tape deuxième, mais
déjà,
c'est du 50-50, non ?
L'Italie aura déjà du mal avant ça dans son finale demain, contre la Croatie.
Ah bon ?
Donc, ouais.
Ouais, la Croatie,
Les enterre pas trop.
C'est les pattes de l'Europe.
Non, n'enterre pas trop vite la Croatie. Moi, j'ai vu l'Italie.
Les Italiens, Flo, attention.
Ouais, l'Italie, depuis le début du tournoi. Moi, j'ai vu plus de qualité offensive, même dans les matchs de la Croatie depuis le début, que dans ceux de l'Italie.
Ouais, l'Italie, ça ronronne un peu encore. Ça ronronne.
Dans un instant, on parle de Hongrie-Écosse, la Hongrie qui va maintenant attendre les résultats des autres poules pour savoir si elle est qualifiée. Avec 3 points, une différence de moins 3, c'est pas forcément gagné, hein. On verra, ça va dépendre l'un des autres. On va justement aller faire un tour en Hongrie dans quelques secondes. A tout de suite dans l'After avant de parler de l'équipe de France ensuite jusqu'à minuit et demi.
RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot, Intégral Euro,
Gilbert Bribois.
23h48, Ricardo Fati est là, Florent Gautreau est là, et Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah, t'es dans une fan zone de Berlin?
Je suis à Francfort.
Ah, t'es à Francfort?
À Francfort, au stade, ouais, j'étais à Suisse-Allemagne.
Très bien. Suisse. Bon, pendant ce temps-là, t'as perdu une de tes équipes, là, mon vieux.
Ah ouais, j'avais l'écran avec moi, mes petits Écossais. C'est dur parce que tu perds à la 100e minute, bien sûr. Est-ce que c'est dur finalement par rapport à tout ce que tu as montré ou pas montré, surtout dans cet Euro? Je sais pas, ils ont 3 tirs cadrés en 3 matchs. Hein. 3 tirs cadrés.
C'est faible.
En 3 matchs pleins, c'est quand même assez incroyable.
Il y a un penalty hein, sur Armstrong, hein. On l'a vu.
Ouais,
on a vu les images,
je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense qu'il y a penalty. Et puis il y a l'action pour McGregor aussi, avant le but d'ailleurs, à la 99e minute. C'est dur, après ils n'ont rien fait, ils ont eu le ballon, ils ont rien fait pendant 75 minutes non plus, ils n'ont pas eu un tir, ils n'ont rien eu du tout. Donc au final c'est une équipe qui était limitée, on l'avait assez expliqué, qui était...
Ah,
on l'a perdu.
On le relaie, mais moi j'ai dit tout à l'heure dans ce match, la Hongrie a été un peu aussi condamnable, hein, mais ils avaient décidé de laisser le ballon à l'Écosse. Et l'Écosse, qu'est-ce qu'elle a fait de ce ballon? Elle a balancé des ballons dans la surface. Sans grande imagination, tous les coups francs, y compris les coups francs à milieu de terrain, il est joué dans la boîte directe. Donc oui, certes, il y a 2-3 occasions à la fin, une occasion et un penalty peut-être qui aurait dû être sifflé, mais au final, les deux équipes, pour moi, méritaient d'être éliminées. Et en tout cas, l'Écosse, effectivement, ne mérite pas de passer. C'est quand même une petite Écosse. Là, on est dans l'élargissement de l'Euro, la typique. Hein. Franchement, ces équipes-là, c'est très, très, très limite. Après, la Hongrie réussit son coup, donc s'ils se qualifient, tant mieux pour eux. Hein. Je leur souhaite. Mais franchement, dans le match, je suis assez d'accord avec ce que disait Julien au début dans sa prise d'antenne. Est-ce qu'ils méritent vraiment de passer, même s'ils prennent un but à la 100e minute? Ça change pas grand-chose au fond du problème en termes footballistiques.
Ouais, l'Hongrie, c'est pas très grand-chose.
C'est décevant d'ailleurs, c'est presque une caricature un peu. Moi, je les vois pas beaucoup jouer. Je m'attendais un peu à autre chose.
Exactement. Ouais. C'est des surprises qu'on peut s'attendre. On les voit avec la Suisse qu'on voit moins jouer, même si on connaît les joueurs. Mais on s'attendait à beaucoup mieux, forcément pour la Hongrie surtout parce qu'ils ont un coach italien. Bon, même si on a des idées préconçues, hein, des coachs italiens très durs, très défensifs, très fermés, mais bon. Ça doit proposer autre chose. En plus, ils ont un super joueur, Szoboszlai, qui est super fort. D'ailleurs, qui a montré des belles choses, hein. Quelques éclaircies, quelques crochets.
Mais quand même, même eux.
Au-delà de ça, c'était même trop
eux,
léger.
Ils laissent le ballon à l'Écosse en se disant, on va jouer le contre. Bon, ils ont fait effectivement 2-3 belles transitions. Et à la fin, dans les 10 dernières minutes, ils ont eu 3 ou 4 occasions. T'as envie de leur dire, pourquoi vous avez pas fait ça plus tôt, quoi?
Alors, Julien, on a retrouvé Julien un truc à rajouter sur l'Écosse où on leur souhaite bon courage et on les retrouvera à l'Euro en 2050.
Oui, ça doit être ça. Non, mais après, ce qui est dommage, parce qu'effectivement, on a tous raison, ils méritent pas, mais ça pouvait être historique, parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils sont jamais qualifiés pour ils ont jamais passé les poules dans aucune Coupe du Monde ou aucun Euro, et là, ils avaient l'occasion de le faire. On avait dit après le match nul contre la Suisse qu'ils étaient finalement là où ils voulaient. Ils étaient contre la Hongrie avec la possibilité de gagner, de se qualifier. Et ben c'est dommage que ça se soit pas passé. Ils ont en tout cas eu des supports supporters vraiment partout ici en Allemagne. Ils sont les Écossais. Ils ont mis une vraie belle ambiance. Et au final, finalement, ils ont manqué trop de qualité, de talent pour pouvoir se qualifier.
Merci Julien.
Merci les gars. À demain pour l'Angleterre. Ciao ciao.
On a avec nous Joël Lepavou qui est journaliste et qui est à Budapest. Bonsoir Joël.
Salut Gilbert. Bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous. Bon, t'as suivi le match où à Budapest, Joël?
J'étais chez les mêmes amis que pour Allemagne-Hongrie, donc ma foi, il y avait quand même pas mal d'ambiance.
Bon, bah on imagine. Bon, le truc maintenant, c'est qu'on attend, il va falloir attendre, parce que c'est pas gagné pour la qualif, hein, parce que 3 points avec une différence de moins 3, parce que c'est ça qui détermine aussi le... Voilà. Bon, je sais pas si toi, t'as déjà tiré des plans un peu sur la comète, mais...
En fait, la Hongrie devait remplir sa partie du contrat, à savoir gagner. Elle a gagné, même si c'était vraiment au bout du bout avec ce but de Chobot. Bon, après, effectivement, il faudrait, pour que la Hongrie soit sûre et certaine de passer, que l'Italie et l'Espagne ne perdent pas, que l'Angleterre ne perde pas, alors là, cerise sur le gâteau, que le Portugal et la Turquie ne perdent pas non plus. Donc ça fait beaucoup de variables. Mais le destin de la Hongrie n'est plus entre ses mains, mais au moins elle a assuré la victoire. Alors certes, au bout d'un match complètement dingue, hein, du point de vue de la Hongrie, c'est vrai que Szoboszlai aurait pu être encore plus convaincant qu'il l'a été, parce qu'il n'a pas été flamboyant depuis le début de cet Euro, alors que c'était quand même censé être le fer de lance de la Hongrie. Bon, on verra si la Hongrie arrive à se hisser en huitième de finale, peut-être qu'il arrivera à se transcendrer et l'équipe avec.
T'as des nouvelles en Hongrie de Varga?
Alors, les nouvelles sont a priori assez bonnes. Il est conscient, il a été pris en charge dans un hôpital à Stuttgart et il va passer la nuit là-bas. Et normalement, il devrait être remis. Bon, on verra s'il pourra participer à un éventuel huitième de finale, parce que c'est quand même l'attaquant titulaire du 11 national hongrois. Alors, on a vu qu'il y a un Adam Martin qui peut intervenir en tant que neuf, mais je ne sais pas s'il a 90 minutes dans les jambes, parce que lui, c'est plutôt un super sub.
Ouais, effectivement à suivre. Bon, vous n'avez pas été impressionné globalement par la Hongrie, les gars?
Non, déçu même, déçu un peu parce que on me l'avait.
Se rappelle la Hongrie qui était dans la poule de la France
hein, qui avait fait un partout. Ouais. Une Hongrie plutôt un peu protagoniste, on va dire à l'époque, et dont on m'avait dit qu'effectivement elle allait proposer des choses, ça pouvait être un bon outsider. Et franchement, sur les trois matchs, j'ai vraiment attendu mieux. Et ce soir encore, je te dis, contre l'Écosse, certes. Bon, tactiquement, ça peut s'expliquer, puisque l'Écosse acceptait de prendre le ballon et de jouer. Évidemment, t'avais envie de les prendre en contre. Mais je pensais que leur qualité supérieure, d'ailleurs, par rapport à l'Écosse, allait leur permettre de montrer un peu plus. Donc, déçu. Après, je trouve que, après la fin de match, elle est assez intéressante et ils ont les deux, trois occasions, là, pour le faire. Alors, moi qui aime les contres et les transitions, sur la dernière occasion du but, c'est un très, très beau contre, ouais, très bien joué. La passe est très, très limite, là, mais elle est très belle. Très beau but en contre. Faut le dire aussi, quand il y a une belle transition, ça a marqué. Mais alors que, bien, il a fallu attendre vraiment très tard dans ce match, jusqu'à 10 minutes de la fin, et peut-être au final quand même, c'est l'un des pires, voire le pire match depuis le début de l'Euro. Ouais.
D'ailleurs, Joël, au passage, un des rares joueurs qu'on peut connaître en France, Loïc Négo, il n'est pas impliqué dans la rotation de l'équipe. Pas un problème, mais il y a une raison particulière.
En fait, il est blessé, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'a pas été sollicité sur les trois matchs. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que l'un des premiers à se précipiter sur Chobot, quand Chobot marque le but libérateur pour la Hongrie, c'est Loïc qui déboule sur tout le terrain. Donc, ça veut quand même dire qu'on peut espérer que pour un éventuel huitième de finale, Loïc sera au rendez-vous. Parce que Loïc est quand même titulaire indiscutable dans l'effectif de Marco Rossi. Il a été remplacé d'abord par Fiola sur le premier match, puis par Bola sur le second et le troisième. Oui. Le fait est que, c'est vrai que ça amènerait quand même plus de dynamique et plus de peps si Loïc pouvait revenir dans le 11 de départ.
Bon, Loïc Négo naturalisé hongrois, le coach Rossi a aussi eu la nationalité hongroise. Est-ce que toi aussi t'es devenu hongrois, Joël?
Non, marié avec une hongroise, mais pas hongrois encore, non. Mais il y a aussi dans l'équipe, tu as Callum Stiles par exemple qui jouait ce soir, qui lui est anglais à la base. Tu as Miloš Kerkez qui est né en Serbie. Alors certes, dans la partie macarophone, on va dire, de la Serbie, là où tu as une minorité hongroise, mais qui n'est pas pas né sur le territoire actuel de la Hongrie. Donc t'as quand même une équipe qui est assez, on va dire, diverse et avec beaucoup de binationaux, dont évidemment le coach Marco Rossi dont tu parlais à l'instant. Quoi.
Donc pour être hongrois, faut jouer au foot, quoi. Faut pas se marier avec une hongroise.
Il faut jouer au foot, ça permet aussi de se rapprocher du pouvoir et du premier ministre. Ouais. Justement, on rend pas très fan de foot.
Mais oui. Et tu parles hongrois parce que il paraît que c'est la langue la plus dure à apprendre, le hongrois.
C'est une des langues les plus difficiles à apprendre, mais j'ai réussi à me débrouiller à peu près. Bon, évidemment, j'apprends tous les jours, c'est pas mal en natale, mais voilà, il y a moyen. Et c'est vrai que quand Chobot a marqué, bon, bah, naturellement, je me suis réjoui en hongrois. Tu vois, j'ai pas eu le français qui m'est venu à l'esprit. Ça paraissait tellement hallucinant, ce but vraiment au bout du suspense, que voilà, à un moment, tu laisses éclater ta joie dans la langue de ton pays d'adoption, quoi.
Bon, ben, bonjour à tout le monde en Hongrie, Joël, et puis on verra hein, dans quelques. Maintenant, il faut attendre jusqu'à mardi, en fait, hein. Jusqu'à mercredi pour savoir si la Pologne, si la Hongrie se qualifie. Merci Joël Pavou, à très bientôt.
Merci Gilbert, bonne soirée à tout le monde.
Salut, voilà Joël qui est journaliste français, donc basé à Budapest.
Très belle ville. Endroit, hein. C'est ouais. Une très belle ville.
Très belle ville.
Ouais. Ah ouais, magnifique.
Ouais. La Hongrie, ça mérite d'être visité.
Tout à fait.
Enfin, la Hongrie, je dis ça.
Je t'avoue que j'ai vécu un championnat d'Europe féminin en janvier à Debrecen.
C'est moins bien.
C'était moins bien.
Ouais.
C'était moins 12. Et au fond de la Hongrie, ouais, c'était moins sûr. Mais bon, c'était sympa quand même. Dans un instant, l'équipe de France, les gars, au programme. Plus l'actu Mercato, actu Mercato à Marseille, à Nice également ce soir. Donc restez bien à l'écoute. On est là jusqu'à minuit 30. Et puis n'oubliez pas, là on a une petite pub, hein, 3 minutes. Le temps d'aller sur afterfoot.media pour vous mettre à niveau sur la revue de l'after, toujours en kiosque. Un numéro magnifique sur les coachs avec Jürgen Klopp en couverture. Et puis il y a les offres d'abonnement à moins de 4 euros par mois. Autant dire que c'est cadeau. C'est parfait pour l'été. Voilà, pour la plage, tout ça, petite revue de l'after.
Bien sûr.
C'est nickel. Allez, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est minuit et une minute. Encore une petite demi-heure d'after. Et ensuite, ce sera la libre antenne avec Nico Villas, avec Oussem Moussaïef, avec Julien Cazard, comme tous les soirs. C'est vrai que ça cartonne la libre antenne. Hein.
Ouais.
Il parle de tout sauf de foot, évidemment. C'est peut-être pour ça que ça cartonne d'ailleurs.
Ouais, bah en plus, entre Nico Villas et Oussem Moussaïef, forcément, des joyeux lurons qui sont à l'antenne.
Voilà, bah, ils seront là d'ici 28 minutes maintenant. Plus Julien Cazard, qui lui n'est pas du tout joyeux luron. Hein, qui est... alors, avant de parler Mercato, l'équipe de France. L'équipe de France avec aujourd'hui entraînement, évidemment. Notre équipe qui suit l'entraînement nous fait parvenir minute par minute ce qui se passe. Notamment un truc aujourd'hui, Kylian Mbappé a vendangé. Tous les exercices devant le but, il ratait tout.
Ah.
Bon, après, hein, c'est pas.
C'est bon signe, ça, parfois.
Ah, tu penses que c'est bon signe?
Tu vois, la veille d'un match, parfois, tu sais.
Il a même fini l'entraînement sans son
masque.
Sans son masque, là. Voilà, bon, sans doute qu'il n'y avait pas de confrontation, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà les infos du jour. Et figure-toi, Florent, qu'on va avoir un avis de Ricardo. On n'a pas encore un jingle Ricardo, je pense.
Ah.
On en a un.
Ah bon.
Jingle Ricardo Fatih.
Ouais, il y a eu les transferts qui ont amené une certaine émulsion, même s'ils sont remplaçants, même s'ils jouent pas beaucoup les nouveaux joueurs.
C'est même l'émulation, Ricardo.
L'émulation.
L'émulsion, c'est pas mal aussi.
Ça peut marcher.
Bah on voit ce que on voit. Voilà, ouais. L'émulsion, ça se passe un truc quoi.
Ouais, bon, celle-là, je l'aurai jusqu'à la fin.
C'est comme ça, c'est les dossiers. Émulation.
On en a tous.
Bon alors toi, tu veux envoyer un message à Deschamps.
Bon, un message à Deschamps, oui, mais je sais que
tu sais qu'il s'en fout.
Un coup d'épée dans l'eau surtout, mais c'est mon envie, mon opinion. J'imagine que partage aussi beaucoup de Français ou de fans de foot. Évidemment, c'est plus d'audace, c'est plus d'entrain, c'est plus d'action, plus de vitesse. Et plus de jeux offensifs. Alors forcément, on va me répondre, hein, mais ça y est, tu connais Didier, depuis 2010, il est là. Il a fait une centaine
de matchs. Mais t'as raison, ça nous empêche pas d'espérer,
mais
de
oui,
rêver.
C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut, parce qu'on est à l'Euro. Comme Flo l'a dit en début d'émission, voilà, c'est l'élargissement de l'Europe. Donc il y a des matchs un peu, on va dire, pas des matchs qui ne comptent pas, mais des matchs vraiment où on peut encore se tester, on peut tenter des choses. Et j'ai vraiment envie que M. Deschamps se serve de ce dernier match contre la Pologne pour tenter quelque chose. pour justement, on parlait d'animation avec l'Allemagne, vraiment changer d'animation, essayer pourquoi pas une doublette d'attaquants avec des vrais ailiers, pourquoi pas essayer de trouver un sort de déséquilibre même, parce qu'on connaît Didier Deschamps et vraiment son envie de solidité, surtout au milieu de terrain. On l'a vu lors du dernier match, son 4-4-2 à plat avec Rabiot qui resserrait bien aussi à la perte. Alors certes, il y a eu du bon, hein, attention, il y a eu du bon même contre les Pays-Bas.
Défensivement,
il y a eu du bon. Et on a eu plus de mal à se projeter, même si encore une fois on a eu un N'Golo qui était au four au moulin, qui était exceptionnel. À lui seul qui arrive à trouver des
animations. Donc pour toi, plus d'audace, c'est en gros...
C'est au niveau des joueurs.
Voilà, c'est au niveau choix offensif.
Au niveau des choix offensifs, j'aimerais voir plus davantage, si on doit sortir des noms tels quels, peut-être Coman, voilà, plus investi. Je sais qu'Olivier Giroud...
Barcola, était, possible qu'il ne joue pas une minute, celui-là.
Voilà, Barcola, mettre à gauche. Je sais qu'Olivier Giroud aussi est un peu touché, un peu affaibli, mais le mettre voilà, devant, avec pourquoi pas avec Thuram. De grands tours de contrôle qui peuvent attirer des centres. Et donc pour le coup, j'ai envie de voir un peu en fait de la nouveauté. Quand je parle d'audace, c'est pas forcément d'efficacité, c'est pas forcément une victoire, mais l'audace, c'est voilà, tenter des choses. Dire voilà, on a voulu tenter un truc, on a 25-26 joueurs et voilà, j'avais envie de trouver quelque chose. Alors, encore une fois, coup d'épée dans l'eau. Je sais que
c'est possible.
Le staff Guy Stéphane et monsieur Deschamps sont vraiment focalisés sur l'objectif final qui est la victoire, donc ils le font de manière pragmatique.
Flo, est-ce que tu es d'accord sur le fond?
Oui, bien sûr, moi je suis d'accord. Je suis d'accord d'autant que j'ai envie de dire, et tu l'as un peu dit, la Pologne, c'est pas un match incroyable, quoi, je veux dire, pour la France normalement. Bien sûr que c'est un match capital parce que finalement, ils n'ont que 4 points et tu peux pas te permettre de passer ce match mais n'importe comment. Mais tu as les joueurs, il faut avoir confiance dans tes joueurs. Et là encore.
Je t'es largement au-dessus de la Pologne.
D'une part.
Parce que s'il y a bien un match où tu peux justement faire quelque chose, c'est là.
Et surtout, je reviens à ça, je l'avais même dit, moi, pour le premier match. J'avais dit ça à Daniel, j'avais dit, écoute, même sur le premier match contre l'Autriche, qui n'est pas non plus un foudre de guerre, même si c'est une très bonne équipe, si t'as des soucis, là, à l'époque, c'était plus parce qu'on parlait de soucis physiques, d'Mbappé et compagnie. Ouais. Si t'as des soucis, qu'est-ce qui t'empêche de mettre Barcola, même au début, pour surprendre ton adversaire, qui, à aucun moment, ne s'attend à ça. Tout le monde s'attend à ce que dit Ricardo, c'est-à-dire que, en gros, Deschamps fasse comme d'habitude. Donc l'imprévisibilité, c'est ça aussi. Ça peut aussi servir à ça. Sachant qu'effectivement, t'as Coman, t'as Barcola. Évidemment, ils vont peut-être jouer parce qu'ils vont peut-être entrer. Coman, t'as l'impression, c'est assez rare, quoi, de le voir. En ce moment, Dembélé, par exemple, n'est pas très bon. Moi, j'aime bien Dembélé. Je pense que c'est lui le titulaire entre guillemets du côté droit. Mais qu'est-ce qui empêche Deschamps de challenger Dembélé aussi en lui mettant quelqu'un dans les pattes en ce moment pour lui dire c'est vraiment ce que tu fais là, c'est insuffisant. Qu'est-ce qui empêche, à moins qu'il y ait des soucis de pépins physiques, de mettre Giroud, effectivement, qui, en quelques actions, en quelques déplacements dans le dernier match, a montré quand même que son rôle de pivot pouvait être très, très utile et que dans ce rôle-là, il était effectivement assez remplaçable. Donc, effectivement, tu as envie de voir autre chose. Mais l'envie que tu as, tu l'auras sans doute probablement dans une deuxième partie du match. C'est-à-dire que tu as l'impression que son quatrième milieu, là, c'est le Rabiot qu'il a mis à gauche, comme à l'époque Matuidi, comme à une époque Sissoko, tu as l'impression que tu vas te traîner ça après. Parce que ça marche dans son esprit, et c'est vrai que les joueurs ont été plutôt bons. Donc comme ça marche, entre guillemets, défensivement, tu as l'impression que tu vas te traîner ça longtemps.
Après, moi, la peur que j'ai, c'est que ce soit trop prévisible. C'est un peu comme justement Nagelsmann avec l'entrée de Leroy Sané à chaque fois, que c'est la même rengaine, il rentre, mais on voit le même Sané qui est peu productif, qui sait qu'il a que une poignée de minutes pour essayer de prouver, donc il surjoue un peu. C'est un peu aussi l'image que j'ai de Coman quand il rentre en jeu. J'ai l'impression qu'il est un peu frustré. Et l'envie de tout. Exactement, c'est le terme que je cherchais, surjouer. Le coup, voilà, chercher un peu de côté imprévisible. Vraiment.
Oui, on revient à Moratti Akin. La façon, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois l'imprévisibilité pour les adversaires, mais pour ses propres joueurs. Savoir que tu peux être titulaire à tout moment, que Coman, par exemple, puisse se dire, c'est peut-être moi qui vais débuter contre la Pologne parce que, voilà, il a peut-être envie de quelque chose, j'ai intérêt d'être à bloc. Même les joueurs, je pense que globalement, ils savent à peu près ce qui va se passer. Oui. Et que, bon, il y a effectivement peu de chances que tu vois une composition surprenante avec du Barcola ou du Coman au départ.
Je demande pas qu'il change son système comme il a pu le faire, justement, lors de l'Euro précédent. jouer à trois derrière. Non, c'est pas ce que je demande, hein, de mettre comme un piston droit. Mais c'est vraiment de mettre des joueurs vraiment à leur poste fort. Un Barcola, un vrai ailier, Coman également, Giroud en pointe. Pourquoi pas Griezmann qui tourne autour de lui, ou voir pourquoi pas même double pivot offensif Giroud Thuram.
Ouais, mais là,
de l'audace.
Alors là de l'audace peut-être. Après,
complémentarité aussi.
Comme t'as Mbappé qui, à mon avis, va débuter. Déjà, bon, pour moi, ça s'est réglé. Et après, les deux joueurs à challenger, quelque part, tout en restant dans son système, c'est Thuram qui a pas été assez bon, même si pour moi, il a pas été assez bon aussi parce qu'il a pas été utilisé dans la meilleure des configurations, et Dembélé qui n'a pas été assez bon. Donc, à la limite, ce serait ça pour dire aussi à ces joueurs-là, contre en plus la
Pologne. De toute façon, comme il change que les attaquants et qu'il changera pas le reste.
C'est ça.
Peut-être, non, mais peut-être dans ce cas-là, tu vois, ce serait intéressant d'avoir aussi un peu pour tout le monde, pour nous, pour les adversaires, un peu d'imprévisibilité, effectivement, en te disant, ah, tiens, c'est pas Dembélé qui commence, c'est Coman. Ouais. Par exemple, pourquoi pas. Mais effectivement, après, avec Deschamps, on est assez on est assez frustré.
Voilà. Bon, vous le savez, après deux matchs, la France n'a pas marqué un seul but, puisque le but marqué a été marqué contre son camp par les Autrichiens. Et surtout, le seul 0-0 pour l'instant, c'est nous.
Ouais.
C'est France-Pays-Bas.
Bon, après, cette histoire du but contre son camp, moi, je suis pas trop pour. Enfin, de se moquer un peu de ce truc-là. Parce que quand tu provoques, quand t'es attaquant, et qu'à la fin d'une pression de 25 minutes, tu fais craquer ton adversaire, que toi, ta frappe, elle est cadrée, et que c'est un mec qui l'avait dedans, il y a des
surtout
buts différents.
Surtout que l'action était bien amenée.
Ouais,
aussi.
L'action était bien amenée. Donc, moi, l'histoire de dire, ah, c'est un but contre son camp. Ça dépend. Il y a but contre son camp et but contre son camp, tu vois. Donc cette histoire de la France, dire la France n'a marqué aucun but. Si la France, ce but-là, il est pour la France quand même. Ouais. Après, ça change rien. On est d'accord sur le fond. La France, offensivement, moi je l'ai dit l'autre jour dans mon premier point quand on était à Grenoble, j'ai dit qu'on s'était fait chier et royalement. Et la plupart du temps, c'est surtout ça. Parce que les buts, c'est une chose. Mais c'est la création offensive, c'est l'animation, c'est le fait qu'il se passe des trucs. Je veux dire, tu peux très bien avoir très peu de buts et avoir plein de choses en te disant tiens, t'as eu un arrêt, t'as vu le gardien géorgien qui fait plein d'arrêts, t'as des très bons gardiens, ça peut arriver. Mais tu as vu les arrêts de Verbrugge l'autre jour avec les Pays-Bas, non?
On m'envoie un message, on m'a dit tiens, il devrait peut-être tenter la casette Griezmann. Ah mais non, mince, c'est pas bon.
Thierry Henry peut-être en haut.
Non, mais c'est intéressant aussi de voir quand même que en dehors.
Moi, je trouve que c'était une bonne idée, la casette Griezmann. On avait milité pour la casette dans l'after. Hein.
Peut-être la casette Griezmann. On avait milité pour les JO aussi.
Oui, mais Griezmann n'ira pas au jeu.
Non. Mais tiens, c'est intéressant d'en parler parce qu'on parle de l'animation, on parle des joueurs. Mais l'une des clés, l'autre clé, c'est arriver à toucher Griezmann dans les bonnes zones et parce qu'il fait un mauvais début d'Euro. Alors à la fois par sa faute, sans doute un peu, mais aussi par la faute du système et de l'animation. Et à mon avis,
plusieurs dizaines de matchs en équipe de France qu'il n'a pas marqué.
Ouais, c'est
très longtemps qu'il n'a pas marqué.
Qui ne marque pas, puis là je l'ai trouvé un peu plus entre les deux matchs en conf de presse et dans le deuxième, à part le tout début où il s'est projeté, il a été un peu plus au cœur du jeu. Il n'est plus au cœur du système offensif. Donc moi je suis un peu inquiet pour ça, parce que dès qu'on va retrouver, si on retrouve la connexion, par exemple Mbappé-Griezmann ou une connexion dans les bonnes zones, c'est Griezmann qui va nous déclencher les actions.
Moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à Griezmann, même si j'en parlais déjà sur Génération After, c'est que il se soucie plus vraiment entre guillemets des stats purs et durs. Il est vraiment pour le jeu. On l'a vu au Qatar. C'est un gars qui aime
beaucoup décrocher. C'est vrai parce qu'il marque plus que.
Exactement. J'ai l'impression qu'il est pas vraiment focalisé sur la performance, sur les statistiques. Il est vraiment là pour apporter du lien. Du lien entre les différentes.
Mais même là-dessus, il doit être frustré en ce moment.
Il doit être frustré parce que là, il est plus haut, donc forcément, il doit être plus efficace. Mm-hmm. Mais moi, je le trouve bien, même dans l'investissement, Griezmann. Hein. Au-delà du fait qu'il est peut-être moins bien ou moins bon, il est toujours aussi investi. Et je pense qu'il est toujours aussi concerné.
Ce qui le frustre, c'est plus que sur certaines phases. Comme l'animation offensive, honnêtement, n'est pas bonne.
En fait,
il n'est pas servi dans les bonnes zones. C'est pas lui qui est pas bon. En fait, si tu es à plein de joueurs, Thuram, c'est pas lui qui est certes un peu maladroit, mais il est aussi dans des positions et dans un placement qui ne le servent pas. Ouais. Griezmann, il est déconnecté de son bloc. Là, on se retrouvait l'autre jour avec 7 joueurs à un moment donné. Enfin, je compte le gardien et lui avait du mal à être touché. Donc, comme l'animation offensive n'est pas bonne, il n'est pas touché. Et là, derrière, lui, oui, il va faire les efforts. Il va aller récupérer. Il va changer de zone pour aller chercher le ballon. Il l'a fait. J'ai l'impression qu'il s'est lassé un peu à un moment donné. Et ce dont je me souviens à la Coupe du Monde, ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans ce cas-là, Griezmann passe son temps à courir. Alors, c'est encore pire à la Coupe du Monde pour couvrir, y compris Mbappé. Ouais. Et il a fini sur les rotules à faire une très mauvaise finale. C'est aussi tout ça qu'il faut réussir à équilibrer.
Aurélien Tchouaméni, en conférence de presse aujourd'hui, est venu et il a répondu à cette question qui revient maintenant à chaque fois. C'est Griezmann qui avait lancé d'ailleurs le débat en disant « Oui, bah, parfois c'est chiant, mais bon, on gagne, donc voilà, hein, c'est comme ça. » Mais il reconnaissait, Griezmann, rappelez-vous, avant l'Euro déjà, il disait « Bah ouais, parfois c'est chiant. Oui. » Bah, écoutez ce qu'en pense Tchouaméni.
Je pense que 0 but marqué, 0 but encaissé, 4 points, c'est peut-être jamais arrivé dans l'histoire du football. Donc, il y a des personnes qui veulent bien jouer, d'autres qui veulent gagner en bien jouant, d'autres qui veulent juste gagner. Moi personnellement, le plus important, c'est de gagner. Donc à partir de ça, qu'on joue bien, qu'on joue mal, si à la fin du match on repart avec les 3 points, c'est le plus important.
Voilà.
Alors déjà,
on croirait entendre Deschamps.
Alors déjà, Gilbert, hein, tu vois, Aurélien Tchouaméni, il pense comme toi. Hein. Pour lui, c'est pas un but de la France. Hein. Il a 0 but marqué, 0 but encaissé. Non mais après oui, c'est pour ça, quand je demande plus d'audace, c'est vraiment mon œil de footeux en fait, d'ex-footeux. Forcément, le joueur de foot, surtout en plus des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs, ils veulent plus que la victoire, ils veulent plus que le...
Même les mecs sur le terrain, ils veulent bien se rendre compte. Oui. Bah, c'est ça.
C'est pour
alors
ça.
Ils n'ont pas les comptes des champs, évidemment, personne ne va aller dire on s'emmerde. Bon, ouais.
C'est vrai, ça peut... amener une sorte de frustration et bon j'espère que ça sera pas dommageable sur le long terme sur la compétition, mais après Deschamps encore je pense qu'il a eu les mots aussi, il a eu l'attitude, il prend aussi c'est aussi pour ça qu'il a aussi cette notion de groupe importante parce qu'il veut des j'allais dire des soldats hein, sans être péjoratif mais voilà des joueurs qui suivent vraiment son ambition, son caractère et il veut pas de vagues dans son effectif donc forcément les joueurs suivent mais ça peut être problématique à terme.
Mbappé sous la menace d'une suspension, faut-il vraiment prendre le risque de le mettre titulaire demande sur Direct Studio Amel.
Ouais, mais le problème, c'est que si tu le mets pas pour cette raison-là, tu le mets pas parce que tu le préserves avec son nez dans un premier temps et alors qu'il a besoin de jouer, on va jamais le faire jouer.
Tu penses qu'il a besoin de jouer
Ah oui, il a besoin de jouer. Il a besoin de courir.
Bof, moi je pense qu'il peut se permettre.
Après, il peut y avoir une stratégie où tu mènes 3-0 à la mi-temps, je pense que de le faire rentrer.
Mbappé n'a jamais aussi entre guillemets aussi peu joué par rapport à ce qu'il aime faire. T'es dans la répétition avec le PSG. Donc il a je pense que un match sur le banc là pour lui c'est un enfer. Tu vois donc là pour moi c'est titulaire direct contre la Pologne. Et tu dois battre la Pologne, tu dois le remettre dans le circuit. L'histoire du nez, je veux dire ça. Sauf si le staff avait dit c'est médical, c'est pas possible. Il peut pas jouer pour X raison, il y aurait un truc spécial. Ok. À partir du moment où il peut jouer, il est sur le banc des remplaçants. Terminé. Maintenant,
moi,
faut le faire
moi je prendrais pas le risque de le mettre. Sincèrement,
arrêtez, sinon ils vont
pas à l'abri d'une petite broutille. D'un
toi, tu gardes pour la phase finale.
Je garde pour les huitièmes. Il aura encore 5-6 jours en plus pour récupérer, pour retrouver du flair entre guillemets, sans mauvais jeu de mots devant les buts. Et revenir à 100%. Après, je sais que on le voit, on l'a vu contre les Pays-Bas, il sautillait sur son banc, il trépignait, il regardait l'écran géant comme tous les.
Ah, il est pas habitué.
Il est pas habitué, c'est vrai. Mais voilà, et moi je pense qu'il faut le garder au frais encore jusqu'en huitième.
Oui, et puis Samy nous rappelle quand même que le fameux contre son camp, c'est pas sur une frappe, c'est sur un centre en retrait.
Ouais, sur un centre. Ouais. Mais après l'action était bien
normale. Ouais, mais enfin après tu sais pas pourquoi le gars, tu sais, quand t'es dans une trajectoire en règle générale. On se demande toujours, toi, quand tu connais pas bien le foot, tu te demandes toujours comment il a pu faire pour mettre ce but contre son camp. Mais parce qu'il sait pas qui y a derrière, mais parce que tu sais pas, ça va tellement vite. Donc moi je suis assez indulgent d'ailleurs avec les gars qui marquent contre leur camp, parce que t'es dans une zone quand même périlleuse si t'es là. Ouais. Après, je suis moins indulgent avec ce qu'ont fait les Turcs, par exemple.
Le but contre leur camp des Turcs.
Par exemple, pas possible. Le mec, il lève pas la tête pour faire la passe à son gardien, tu vois, c'est un peu compliqué.
On lui parle pas non plus, on lui parle mal.
Tiens, écoutez Tchouaméni maintenant sur les doutes éventuels liés au fait de ne pas marquer.
Il y a des personnes qui veulent gagner, il y a des personnes qui veulent bien jouer, d'autres qui veulent gagner en bien jouant, d'autres qui veulent juste gagner.
C'est
de gagner. Donc à partir de ça, qu'on joue bien, qu'on joue mal, si à la fin du match on repart avec les 3 points, c'est le plus important parce que je pense que à la fin de nos carrières, on se rappellera plus du palmarès de chacun plutôt que de la manière de jouer, même si c'est vrai que des fois ça peut rester dans les têtes. Il y a eu pas mal de très bons résultats ces derniers temps en équipe de France avec ce coach-là. Donc ça veut dire qu'il y a eu des résultats avec beaucoup de titres. Je peux comprendre que pour certains qui veulent regarder du très beau jeu, on n'est peut-être pas l'équipe qui joue le mieux, mais on est l'équipe qui se retrouve le plus souvent dans le carré final. Donc pour moi, c'est ce qui m'importe.
Bon, voilà. Moi, c'est plus complet. Il dit on refait le palmarès à la fin.
Oui, bien sûr. Après, une vision très, on va dire, cartésienne de la chose. Est-ce que tu veux jouer bien jouer, est-ce que tu veux gagner, tu veux gagner en jouant bien, comme il l'a dit. Bon, après c'est une question philosophique.
Fait, moi je vais dire c'est une question qu'on
devrait... Ça me fait surtout penser qu'on n'a pas encore essayé les recettes de Josep Tchouaméni sur Uber Eats.
C'est vrai, mais
notamment le Pokéball, riz noir, crevette.
On essaiera. Non, je voulais dire que cette question.
Ça te suit ça?
Glissement de produit.
La mère de Tchouaméni qui donne ses conseils. Enfin, est-ce qu'elle préparait pour son
tout.
Fils. Eh ben voilà. Pokéball, riz noir, crevette.
Ça a l'air de marcher.
Ouais, moi je vais tester.
Moi cette question là du.
Je remercie Josette pour ses bons tuyaux.
Cette question du jeu là et du beau jeu et du jeu moche, je pense que c'est une question qu'on ne devrait pas poser aux joueurs. Parce qu'en fait, moi, si j'étais joueur dans une équipe et que je gagnais mes matchs, je m'en foutrais.
Ouais, ouais.
Mais moi, je suis spectateur, observateur, et donc j'ai un avis sur la question. Je comprends qu'un joueur puisse dire à la fin, putain, je l'ai fait. Genre, on a pas bien joué, putain, mais on a gagné. Je sais pas comment on a fait, mais on a gagné. Et si t'es joueur, tu te dis, ok. Alors après, tu peux avoir une réflexion en te disant, attention, les gars, 38 journées dans un championnat. Si on joue comme ça pendant 38 journées, normalement, on va pas y arriver. C'est possible. Mais moi, si je suis joueur en équipe de France, je suis assez d'accord avec Tchouaméni. Je me dis, ah, les gars, moi, ça me va. Après, nous, on est observateurs, on est extérieurs. T'as des supporters. T'as le droit de dire.
Ouais, donc, tu demandes plus de compte au sélectionneur ou
ouais,
au coach.
Exactement. Moi, si j'étais joueur, j'avoue que, par exemple, le match contre l'Autriche, là, je prends, quoi. Je dis, OK, c'est gagné.
En tout cas, t'as rajouté 2 euros dans ta cagnotte.
Ah, j'ai dit merde.
Non, t'as dit peu. Voilà.
Ah, d'accord.
Deux fois.
Non.
Bah si, deux fois, mon vieux.
Ouais, mais il n'y a pas des soldes, là, l'été.
Non, moi, j'ai sur total, là, t'es sur la... Bon, sur la saison, t'es à 13 euros. T'es quand même loin des 80 balles de Daniel, tu vois.
Ah, Daniel est pas mal, lui. Hein.
Daniel, tu sais que la cagnotte, à la fin de l'euro, on va tous manger chez Verratti. Le reste de Verratti. Okay. On amène Daniel.
Ok.
Tu vois, bon, on va acheter des pizzas, tu vois, ça va être sympa. Ah, c'est Verratti, lui qui va payer pour tout le monde.
Bah, très bien.
Chez lui, carrément.
À son restaurant, il y a un restaurant à Paris.
Très bien, moi ça me va.
Ouais. Donc, moi, je paye Daniel.
On verra.
Je paye quoi avec 13 euros là?
Ah, 13 euros.
Je paye un apéro, même pas. Un café.
13 euros, ouais. Je paye
5 cafés.
Deux tiramisu.
Ouais. Ok, ça marche.
Bon, voilà pour l'équipe de France. Dans un instant, on va parler mercato. Lille, Nice, Marseille, entre autres, et le reste de l'actu du jour. Actu encore un peu euro également à suivre, notamment concernant les matchs de demain, vous allez voir. Et puis ensuite, ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 1h30. L'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
1h22, encore 10 minutes d'after ensemble avant la libre antenne. De l'after toujours, Ricardo Fati est là, Florent Gautreau est là. Alors avant de parler de Mercato, 2-3 infos euro encore, les gars. Vous dire notamment que, un truc assez marrant, il y a une règle en Allemagne qui pourrait provoquer une amende pour la fédération espagnole. En fait, en Allemagne, il y a une loi qui encadre la jeunesse, la loi sur la protection de la jeunesse, qui fait qu'un jeune mineur n'est pas autorisé à travailler en soirée après 20h. Donc, Lamine Yamal, il n'est pas censé bosser en Allemagne. Et c'est valable pour les Allemands comme pour les étrangers. Oulala. Sur le territoire allemand.
Ouh là là.
Donc, c'est la ZDF quand même qui dit quand même il y a des lois dans ce pays mineurs, pour les mineurs, donc en dessous de 18.
Alors, il n'est pas tout seul, Yamal, avec mineur.
Petite spécificité, vous allez voir. Donc, l'Espagne pourrait se prendre 30 000 euros d'amende. Yamal, donc, était sur le terrain. Alors, en fait, il y a une dérogation pour les sportifs jusqu'à 23 heures. Mais sauf qu'à 23 heures, le boulot n'est pas fini. Il faut que tu aies une conférence de presse, il faut que tu ailles, le match est éventuellement terminé. Donc, que va-t-il se passer?
Il travaille encore, en fait.
Est-ce que la loi allemande, parce que les Allemands sont assez. C'est la rigueur allemande, on rigole pas trop.
Là, je dirais que 23 heures, si le gros de son job étant d'être footballeur, c'est bon. Ça passe. Si tu l'enlèves, imagine, il ne peut pas jouer la prolongation. La loi allemande, l'interdit de jouer la prolongation. Voilà. Contre la France, Espagne-France, Yamal est obligé de sortir. Parce qu'il
imagine
a pas
des
droit.
Gens qui dirait vite, monsieur l'arbitre, il faut le sortir.
Réserve technique.
Après, je sais que le football en soi, c'est vraiment une profession particulière. Après, je ne connais pas le
statut. Je pense que c'est plutôt pour la blague.
Bien sûr, mais si on veut rentrer dans les détails, c'est assez particulier, hein, vraiment, ce métier de footballeur.
Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, d'ailleurs, sur les lois même françaises, là, la gestion des mineurs. Parce que ce n'est pas simple, quand même. Parce que c'est vrai que c'est des gens qui travaillent plus tôt que...
Et on est rémunéré aussi, hein. Et oui, quand on est stagiaire, aspirant, on est rémunéré. Donc
et c'est les parents, il y a un compte qui est bloqué jusqu'aux 18 ans, il y a des choses comme ça, je crois, en France aussi.
Ouais, il y a des comptes bloqués, mais sinon, bah, ils te versent, t'as une fiche de paye à ton nom. Hein,
ouais, c'est ça qui est dingue, ouais, c'est vrai que c'est assez particulier.
Bon, on est dans aucune classe CSP.
Ah oui, ouais, c'est vrai. Il y a pas de
à chaque
y a pas
fois que tu veux ouvrir un compte.
Ah ouais, tu mets, on te demande
quand tu veux demander
quand
un crédit.
Footballeur, tu réponds quoi, footballeur,
bah, artiste.
Bah c'est ça. Soit tu mets artiste, soit tu mets.
Même, Nicolas, garage, même Nicolas Pallois.
Nicolas Pallois, il met artiste. Mais il peut mettre maçon. Il peut mettre BTP.
Bah, l'art est subjectif, messieurs. L'art est subjectif. Hein. Chacun
met ce qu'il veut, ouais. Tu sais. Il y en a qui mettent.
Boucher.
Il y en a qui mettent intermittent.
Ouais, boucher, ça peut être artisan. Artisan boucher.
Ouais, boucher.
Artisan manuel.
Ouais, Rudiger, il met boucher.
Ouais, ouais, voilà.
Ou catcheur.
Bon, pendant ce temps-là, demain, vous le savez, il y a Espagne-Albanie. Et là, notre ami Sylvie Nieu, il a dit, écoutez, c'est très simple, on joue contre la meilleure équipe. L'Espagne, même avec son équipe B, bah, elle pourrait gagner l'Euro. Voilà ce qu'a dit Sylvie Nieu pour le match de demain.
Ouais.
C'est un peu exagéré.
Il est en train de sortir les.
Oui, il est en train de préparer parapluie, peut-être là. Le. Oui. Peut-être. Oui. En tout cas, l'Albanie.
En tout cas, ils vont faire tourner l'Espagne. Hein.
Oui, l'Albanie a eu des amendes parce que vous savez qu'il y a eu des chants insultants vers la Serbie. La Serbie avait menacé de se retirer de l'Euro après le match précédent. Donc la fédération albanaise a pris presque 50 000 euros d'amende là. Et il y a un joueur Daku qui, non pas Dakour, hein, Daku, D-A-K-U, qui après la rencontre a chanté des chants insultants à l'égard de la Serbie et de la Macédoine. Méga en main, bah, deux matchs de suspension. Voilà, c'est un titulaire. Hein. Donc,
ah oui, problématique. Ouais. Après, c'est le gros problème des Balkans, c'est toujours.
Oui, c'est toujours chaud.
Je suis un nationaliste, ouais, compliqué.
Et puis en Angleterre, ça chauffe parmi les consultants. Vous savez que Lineker a allumé les Anglais. Il a dit que c'était un jeu merdique. Ça n'a pas du tout plu à Harry Kane, qui diplomatiquement, Harry Kane a rappelé à Lineker. Il a dit bon, alors je sais que les consultants doivent être honnêtes, donner leur avis. Voilà, c'est les affaires internationaux et tout. Enfin, on n'a quand même pas gagné grand chose depuis très très longtemps, dit Kane. Donc en gros, il y a Lineker. Donc toi, t'as gagné quoi en fait pour l'ouvrir. Donc c'est ça le message.
Ouais, c'est vrai qu'il était meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Ouais.
Lineker, mais bon.
Mais il a rien gagné.
C'est pas un titre.
Exactement. Ouais. Et puis le mercato, les gars. Tiens, on va écouter Jonathan Clauss, qui était en équipe de France aujourd'hui en conférence de presse, et qui parle de son avenir et notamment de l'arrivée de De Zerbi à Marseille. Jonathan Clauss est-il Ah, ben il est pas là. Alors, je vais vous dire moi ce qu'il a dit. Il a dit Jonathan Clauss, l'arrivée de De Zerbi, ça rebat les cartes me concernant. On verra ce que ça donnera cet été. Ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres.
Ouais. Pour une fois, c'est bien parce qu'il y a le côté sportif qui rentre en jeu. Et on en parlait beaucoup avec Walid, encore une fois, hein, sur Génération After, lors de cette fameuse recherche de coach pour Marseille. On a vraiment dit que le choix du coach allait être super important pour Marseille pour la suite, pour son mercato, entrant comme sortant,
ouais.
Et aussi pour sa saison, pour plein de raisons. Et le fait que De Zerbi arrive, plus apparemment son directeur sportif aussi.
Ouais, il vient à 7.
Giovanni Rossi. Donc forcément, oui. Après, il faudra trouver de la place pour tout le monde. Mais en tout cas, oui, comment le club se structure sportivement. Forcément, ça donne envie et pour moi, c'est une très bonne chose et c'est des signaux très positifs et le fait que Jonathan Clauss le dise, c'est très bien et moi, je suis vraiment partisan pour qu'il reste parce que pour moi, la stabilité.
C'est un bon joueur, Clauss. Alors après, il y a une partie du public qui l'a pris en grippe. À un certain moment.
Je pense que Clauss, il faut qu'il règle aussi à la fois tous les problèmes qu'il a pu avoir parce que dans son attitude, sa façon de faire, on se souvient que suite, moi, je l'avais défendu parce que je trouvais que le fait que Mehdi Benatial l'ait mis un peu
sur la place publique,
les afficher, on va dire, en place publique, là, c'était un peu dur. Mais lui-même, après, a une attitude particulière puisque suite d'ailleurs à cette intervention de Benatial, il avait trouvé le moyen d'arriver quand même en retard à une causerie peu de temps après. Donc il faut que chacun mette du sien. Mais l'OM peut difficilement se passer aussi d'un joueur comme ça, sachant ce qu'on a vu en termes de qualité ou de non-qualité cette année à l'OM. Donc ça peut être bien. En tout cas, c'est un bon message pour lui, vu la saison un peu mouvementée qu'il a eue à l'OM, s'il repart sur de bonnes bases avec un entraîneur comme ça. En revanche, là, avec cet entraîneur-là, il va falloir courir. Ouais. Tous les gars là qui vont être là. Donc,
c'est pas le mec qui est moins
d'accord. Non. Ce que je veux dire par là, c'est dans le, c'est dans l'entraînement invisible. Si tu me suis un peu, c'est qu'il faut être sérieux quand même. Tu vois, il y a
un investissement quotidien qui va être demandé, qui va être
professionnalisme,
important.
Investissement quotidien.
Alors, niveau mercato, les gars, il nous reste 30 secondes. Ce soir, grosse rumeur, Milik à Nice. Ouais, pourrait revenir en Ligue 1.
Ça, Arkadiusz Milik, ouais, totalement validable, parce que l'expérience, ça avait déjà été une chance de l'avoir, je trouve, à l'OM en Ligue 1. Non, ce serait plutôt pas mal. Bon, il a une saison, il a mis 8 buts, je crois, avec la Juve cette année. Mais pour Nice, oui. Non, attends, faut se rendre compte de la reconstruction qu'il va y avoir. Et départ de Khéphren Thuram probable.
Oui, peut-être à la Juve.
Et peut-être effectivement à la Juve.
Alors, Romain, peut-être.
Ah, Gisolfi, il a des yeux sur lui. Donc, à voir aussi.
Et puis, alors, Jonathan David, de plus en plus proche de Chelsea. Donc, bon, ça fait un moment qu'il devait déjà partir l'été dernier. Hein, ouais, il est resté.
Le serpent de mer.
Et donc, là, Chelsea s'intéresse de près à lui. Chelsea, ils sont déjà 154 dans le vestiaire. Pourquoi pas un de plus, hein. Après tout, ils sont peut-être pas un prêt. Donc, voilà, pour David. Pantaloni officialisé comme nouvel entraîneur de Lorient aujourd'hui. Et puis, Lévin Kurzawa a donné une interview aujourd'hui sur YouTube. Il dit « J'ai travaillé de mon côté, ça n'a pas été facile. J'ai été mis à la cave, une vraie cave, comme je ne l'avais jamais connue. J'attendais quand même un minimum de respect de l'homme que je suis. Ils ne l'ont pas eu. » On apprend notamment qu'il y a certains entraînements où il se faisait virer au milieu de l'entraînement par Luis Enrique. Qu'il sortait de l'entraînement.
Oh, c'est fou, hein. Mais après,
ouais, moi, dans ce qu'il a dit, j'ai pas vu grand-chose sur le coach. Enfin, j'ai vu des choses aussi sur Nasser El Khelaifi, tu vois. C'est-à-dire pas forcément sur le Paris Saint-Germain, mais il estime que il le dit tout en disant qu'il ne se compare pas à eux. Il remet sur le tapis l'affaire des adieux un peu ratés de grands anciens comme Cavani, Thiago Silva, et il remet en cause, on va dire, la direction dans sa façon de gérer. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui, même si je veux pas défendre Kurzawa, mais je suis d'accord avec lui sur le fait que on l'a déjà dit, la direction là-dessus n'a pas été toujours à la hauteur.
Minuit et 31 minutes, la libre antenne dans quelques instants. Sont-ils là, nos amis Nico, Oussem, Jérôme, ils sont là, tranquilles. Ça arrive à la bourre, décontracté. J'ai un casard. Donc, vous ne démarrez pas les émissions à l'heure, vous. Ça, c'est une nouveauté. C'est la libre France Liberté.
Nous, 32. Mais non, parfois, on finit à 1h50, 1h48.
On fait des minutes
super. On fait des prolongations.
Et les Hongrois, ils ont attendu la 99e minute pour marquer. Vous pouvez faire une minute de temps additionnel. C'est fou, ça.
Mais nous, il n'y a pas de problème.
T'as vu ce qu'ils ont fait, les Hongrois, d'ailleurs, c'est assez fort. Un joueur qui se blesse grièvement, d'où 10 minutes de temps additionnel, d'où but.
Merci qui ?
Merci gardien adverse.
On croit que c'est fini et c'est
on voit rêver.
Merci Ricardo.
Merci Gilbert.
Salut. Merci Ricardo. On sera là. Merci Ricardo. Sur la libre antenne. C'est tout de suite.
C'était bien votre émission.
J'espère que t'as pas trop qu'on a pas noirci Kamavinga parce que.
Ah bah si, vous l'avez. C'est mort.
T'as vu
Giroud et Griezmann, ils sont cuits. Il va se péter la cuisse.
Pas courant, il était pas en train de manger.
Non mais c'est vous.
Il était pas en train de
manger. Kamavinga était pas en train de manger.
Il va se faire la cuisse.
Mais c'est quoi ce.
Mais vous êtes une guine bande de
gignasses. Giroud, il s'est fait mal avant qu'on y aille.
Quand est-ce que vous allez à Bondy ? Moi, ça m'intéresse, moi. Bondy.
On va dans le 9e. C'est toi qu'on va noircir.
Ah ouais, bon, je m'en fous, je suis déjà noir complet, moi. Ça y est, les impôts sont passés.
Allez, la libre antenne, c'est tout de suite.
RMC, l'after foot intégral euro.